Que dire des pièges du réalisme propos de Lacan et de Kant? C'est tout l'objet transcendantal de cet ouvrage. Il s'attache à montrer les liens existants entre la pensée de Kant et une forme de distance à l'endroit du réalisme de la part de Lacan. Quelle est la première thèse de cet ouvrage? C'est que Kant n'est pas quelqu'un qui croit en une réalité fixe et indépendante de notre perception, susceptible en quelque sorte d'exister en elle-même par-delà les aléas de la perception. Kant propose un réalisme empirique, comme on le sait, et un idéalisme transcendantal, tel que les conditions de possibilité de la perception dépendent toujours de notre intuition ou encore de notre sensibilité, le temps et l'espace, et que les conditions de possibilité de notre connaissance dépendent, elles, de notre entendement. C'est la rencontre d'un objet dans le temps et dans l'espace qui permet au sujet d'élaborer une connaissance à l'aide des catégories de l'entendement. Tout ce qui est connaissable se présente dans l'intuition, qu'elle soit pure comme en mathématiques, ou qu'elle implique toute expérience possible comme en physique. Même si, comme le relève Franck Pierre-Aubon, la théorie kantienne de l'expérience possible est en retard par rapport aux avancées que présente la physique de son époque. De là une question. Quel rapport y a-t-il à ce niveau entre Kant et Lacan? Franck Pierre-Aubon affirme que le lien se fait au niveau de l'architectonique, c'est-à-dire de la science des principes, dont Kant ne dit d'ailleurs que fort peu de choses dans la critique de la raison pure, en ce lieu de la pensée que Kant appelle la raison et où le sujet invente des idées directrices pour ses jugements, lieu de construction et d'invention, selon la thèse de Franck Pierre-Aubon, qui rejoindrait une dimension essentielle de la pensée de Lacan, l'art des diagrammes topologiques. L'idée centrale de ce livre, c'est que tant l'architectonique de Kant que la diagrammatique de Lacan obligent à rompre avec l'idée d'une réalité extérieure ou d'une réalité psychique indépendante de la perception que le sujet pourrait avoir, comme chez Freud, et que tant l'art secret et dissimulé des principes de la raison que la topologie des diagrammes invite la pensée à une forme assumée de flottement et de dynamique dont la conséquence, c'est qu'il n'existe aucun modèle, aucune essence, aucune réalité fixe et définitive, en particulier en clinique. Sur le plan éthique pour le psychanalyste, il est impossible à aucun moment d'assigner le sujet à résidence dans une essence fixe et définitive, même s'il est tentant d'en résumer l'essence par ce qu'on appelle communément le trait du cas. Mieux, selon le dernier chapitre remarquable de ce livre, il y a entre les quatre discours qui tentent d'assigner à chaque fois une place au signifiant maître, au savoir, au sujet et à l'objet, une telle circulation, ce que Lacan appelle la ronde des discours, qu'en place de ce qui est réellement produit par chaque discours, la production, il n'y a jamais qu'un semblant de réalité, qu'il s'agisse de l'objet dans le discours du maître, du sujet dans le discours de l'universitaire, du savoir dans le discours de l'hystérique et du signifiant maître dans le discours de l'analyste. Tout est dynamique et échappe à la fixité du concept pour se résoudre dans le flottement impliqué par l'écoute flottante dont parle très bien Christian Firenz, et on ne serait pas loin de la thèse défendue dans le Cratyle « Ce n'est pas même ainsi ». Argument des partisans du flux universel et des adversaires de l'idéalisme de Platon dans le Cratyle, pas même ainsi. Tout est dynamique et ne se laisse ainsi saisir que provisoirement dans une définition et une essence. Voilà la thèse centrale et intéressante de ce livre. Chaque discours est remis en question par un autre discours qui lui répond, et le discours analytique creuse un trou dans la substance réaliste des discours qui produit un effet d'aspiration et d'instabilité propre à préserver la liberté d'invention du sujet et de l'analyste. La thèse est séduisante dans ses conclusions, mais la question reste sans doute posée d'une homologie de l'approche théorique de la réalité entre Kant et Lacan. Elle comporte en tout cas un impensé tout au long du livre, qui est la question du réel par différence avec la réalité. Je vais donc traiter de ces trois points. La thèse est séduisante dans ses conclusions. Oui, la topologie lacanienne récuse le modèle d'une fixité de la réalité indépendante du sujet qu'il énonce. Lacan le dit clairement dans RSI. La topologie des nœuds est à milieu du modèle scientifique. Les discours aussi. Modèle scientifique dont on a une idée, en particulier dans la théorie cartésienne des idées, et qui finalement est reprise in integro dans l'épistémologie contemporaine. La psychanalyse n'est pas là pour fourguer à nouveau frais une théorie renouvelée de l'essence de la réalité psychique, et le livre de Christian Firenze est un avertissement sans frais à l'endroit d'une certaine psychiatrie classique qui, sous les espèces du trait du cas, essentialise la structure en enfermant le patient dans le destin irrévocable d'une essence. On dit comme une évidence « c'est un psychotique ». C'est un paranoïaque et on estime ne rien devoir attendre d'autre du patient que l'expression des traits de sa structure, indéfiniment répétée, irréfragable, et auquel le praticien, comme on dit, doit se résigner sans chercher à aller au-delà. Or, chacun sait que depuis le symptôme de Lacan, l'analyse de la psychose illustrée par ce même séminaire fait l'objet de plusieurs tentatives topologiques, jamais conclusives, mais chaque fois comme une relance diagrammatique ou nodale de l'analyse. Il y a au moins 4 nœuds de Joyce successifs dans le symptôme, et le dernier n'est pas conclusif, quoi qu'un vain peuple pense. Donc je dirais que les avancées de Christian Firenze dans son livre sont fidèles à la pensée clinique de Lacan dans ses derniers séminaires. Il refusait le piège d'un fixisme psychiatrique et tentait des ouvertures dynamiques par les nœuds. Donc ok pour ce... pour cette thèse centrale. Mais, et il y a un mais, y a-t-il homologie entre la démarche théorique de Kant et celle de Lacan ? C'est que la place que Lacan assigne en dernière instance à la liberté pourrait apparaître comme en rupture par rapport à la découverte freudienne. Certes, il est à la rigueur possible de contenir la connaissance objective dans les conditions de possibilité de la connaissance d'un sujet en mouvement chez Kant et chez Lacan, mais là où le bas blesse dans la comparaison, c'est que le sujet de l'inconscient pourrait paraître absent de la problématique kantienne à y regarder de près. Et ce n'est pas sa capacité d'invention et d'idéation à travers l'architectonique qui ferait retrouver à ce sujet sa vigueur native. Lacan évoque parfois avec ironie cette liberté qui lui est offerte de devenir fou à cause du signifiant. C'est la seule liberté, et le déterminisme dans lequel se trouve pris le sujet de l'inconscient, s'il est capable effectivement d'invention, relève des contraintes d'une structure qui va bien au-delà de l'intuition pure, de l'entendement et de la raison. Donc sur ce point, j'émets les plus fortes réserves. Il y a sans doute une question qui court comme en sourdine tout au long de ce livre, c'est celle du réel comme impossible, ou comme ce qui ne cesse pas de s'écrire, de ne pas s'écrire. Bref, comme ce qui échappe à la prise du symbolique et qui toujours insiste à partir de la chaîne signifiante dans les symptômes du sujet, et qui est là irréductible et qui résiste, qui se répète comme un point de butée. Lacan ne croit pas à la réalité, mais il sait que le réel existe, comme il le dit dans un récit, et sa place de corde dans le nœud est bien là pour définir ce que Lacan appelle le jeu de l'existence. Le réel existe, et il se distingue de la réalité en ceci que la réalité, comme Kant le montre bien, dépend de l'intuition imaginaire et de l'entendement, c'est-à-dire des conditions de possibilité de l'expérience et de la connaissance qui se rejoignent. Le réel chez Kant aurait surtout, si on prend un point de vue kantien, rapport avec le noumen, avec la chose en soi, inconnaissable par définition. Il faut dire que ce réel n'a pas le même statut chez Lacan que la chose en soi chez Kant. Il résiste à la prise de l'écriture, mais il s'y plie, comme le démontre la définition du contingent, comme ce qui cesse, virgule, de s'écrire. Il y a donc possibilité par l'écriture d'empiéter sur ce point de butée du réel et de finir par en écrire un bout de réel. Comme le dit Lacan, sans évidemment en épuiser l'existence, car son existence résiste. À ce titre, on peut dire que Lacan est réaliste, non pas qu'il croit en la réalité, mais il croit en l'existence d'un réel pour chaque sujet, et cette croyance ne doit-elle pas servir de guide pour le clinicien dans les cures qu'il conduit ? À quel réel le patient a-t-il affaire? C'est la question à laquelle on se confronte lorsqu'on conduit une cure. Si ce réel n'est pas fixe, c'est vrai, en quoi n'engendre-t-il pas la fixité d'une répétition dans les symptômes? Comment déplacer cette fixité chez nos patients par des effets de sens réel? Voilà, me semble-t-il, des questions freudiennes et lacaniennes. Et ce sont mes questions, peut-être un peu provocatrices, en tout cas sans complaisance, mais dans le respect d'un ouvrage qui ouvre des perspectives sur une autre pratique de la clinique, éloignée du fixisme des espèces propres à la zoologie psychiatrique classique et à l'essentialisme d'un trait du cas qu'il suffirait d'isoler pour mettre fin à l'interrogation clinique et au final renvoyer le patient au silence et à sa souffrance. Donc merci d'avoir écrit ce livre qui nous libère un peu de nos carcans habituels en nous rappelant certains fondamentaux de la pensée de Lacan et une position éthique constitutive de la psychanalyse depuis ses débuts. Ne pas être fixiste, c'est-à-dire réaliste, mais j'ajoute, en tenant compte du réel enjeu pour les patients. Voilà. Alors ?
Alors ?
C'est vraiment bien, moi j'ai presque honte de vous en parler. Hein.
Je trouve que c'est la très bonne question, je t'en remercie.
D'accord avec Lacan et pas d'accord avec la partie kantienne, si j'ai bien compris.
Bah, peut-être disons que la partie kantienne me paraît surimposée. C'est ça c'est-à-dire que je ne vois pas dans la théorie de l'entendement et dans la théorie, enfin dans les différentes théories kantiennes de l'intuition, de l'entendement et de la raison. La possibilité d'une homologie avec la pensée de Lacan. Parce que précisément, on est dans ce type de théorie, plutôt, alors c'est ça qui est paradoxal, plutôt dans une perspective fixiste au niveau de la structure de la théorie, et que quand on lit Lacan, on a plutôt le sentiment que les modèles théoriques sont des modèles ne sont pas des modèles fixes. Et notamment à cause de la topologie des nœuds, ce sont des modèles qui sont sans cesse en transformation, même si on part d'une structure fixe qui est le réel, le symbolique et l'imaginaire. Voilà. Mais ce sont des modèles qui supportent la transformation. Voilà mon objection.
Je vais peut-être répondre à cette objection, mais on va commencer par clarifier un petit peu cela. Bon, c'est un livre très court. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de questions que vous soulevez, que vous avez raison de soulever, qui n'ont pas été traitées, je pense, au sujet de la liberté, ces choses-là. Alors maintenant, l'homologie, c'est la question, au fond, la plus fondamentale de la raison d'être de ce livre, un peu lasagne, une couche Firenze, une couche Pirobon, etc. Et je vais y répondre. Alors, la première précaution méthodologique à faire, qui va dans le droit fil d'ailleurs de ce que vous avez précisé, c'est qu'on ne va pas traiter les objets physiques, par exemple ceci, comme un sujet. Et on aurait vraiment tort de s'en tenir à toute l'épistémologie kantienne comme étant le fin mot de l'affaire. C'est-à-dire tout ce que Kant fait pour fonder la science de son temps selon la conception qu'il y en a, c'est pas quelque chose qui va servir à cette homologie. Il ne faut pas la chercher là, elle n'y est pas. Parce que, pas plus qu'on demanderait à Lacan de faire une métathéorie de la mécanique quantique ou de la relativité générale, on ne peut pas non plus s'en plaindre, c'est pas son but. Donc c'est pas là qu'on va le chercher, c'est pas non plus dans les thématiques, c'est-à-dire dans la question de la liberté qui n'est presque pas abordée, enfin, elle est un peu abordée par la discussion de la troisième antinomie, hein, la causalité libre, la causalité déterminée, pour dire la place qui est faite. Alors, à partir de cela, c'est vrai que la plupart, la majorité, pas dire toutes les lectures de Kant sont des lectures, je veux dire, d'information. Kant a dit ceci, et il y a une espèce de sédimentation scolaire qui fait qu'on a l'impression que ça ne bougera plus jamais. Or, la méthodologie qui peut expliquer des bizarreries que seule la familiarité scolaire qu'on peut avoir avec le texte de Lacan fait oublier, la table des catégories, la disposition des antinomies, tout ça. Alors, quand on se demande avec l'innocence d'un enfant de 5 ans, mais enfin, pourquoi ces tables de catégories omniprésentes? Pourquoi les petites subtilités qui ne sont pas expliquées? Par exemple, elle est modifiée dans la critique du jugement, Kant met la quantité à la place de la qualité, vice-versa. Pourquoi il ne s'en explique pas? Il a cette question de méthodologie qui est traité très rapidement, vous l'avez soulevé vous-même, et c'est là où ça devient vraiment très très intéressant, et c'est là où l'homologie peut se faire. Pas ailleurs, pas dans les résultats, parce que pour la plupart des résultats que Kant annonce, ça n'a rien à voir avec les projets de Lacan et de la psychanalyse en général. Hein, il faut d'abord un petit peu balayer le terrain. Kant veut fonder la science physique newtonienne de son époque, sur une base d'ailleurs un peu réaliste et hautement contestable, et il s'y trompe en pensant que sur cette base-là, il va pouvoir fonder la métaphysique, qui encore une fois n'est pas un but que Lacan pourrait poursuivre, et là-dessus, il n'y a pas d'homologie. Thématiquement, il n'y en a pas, hein, on est d'accord. Maintenant, méthodologiquement, ce qui est vraiment intéressant, et ce qui fait que, on se connaît depuis longtemps, Christian Firenze et moi, on a trouvé vraiment, au-delà d'un article que tu m'avais demandé sur l'objet et l'objectivité.
Paru dans la revue.
Oui, voilà. Bon, il y avait tellement... Moi, je travaille beaucoup, ce qui fait que quand j'écris un article de 20 pages, j'en ai au moins écrit 50 avant de faire un tri. Il y avait beaucoup de choses qui restaient, et surtout des problématiques extrêmement intéressantes. Ces problématiques sont celles par lesquelles il faut rentrer. Quelles sont les conditions de la rigueur, qu'on pourrait appeler scientifique si on ne se perd pas en route? Qu'est-ce qui distinguerait le discours et la pratique psychanalytique, prise dans son sens le plus large, d'un n'importe quoi bien mis en scène? Quelle est l'instance critique? Quelle pourrait être l'instance critique? Comment ça marche? Quelle pourrait être la méthodologie? C'est le même problème en philosophie aujourd'hui. Quelle est la méthodologie qui fait qu'on n'a pas affaire à de l'opinion mise dans un ton grand seigneur, pour citer Kant, qui fait que les philosophes se succèdent, chacun raconte quelque chose et on ne voit pas comment juger? Et cette question de méthodologie, elle semble avoir été totalement annulée à partir des Lumières par l'essor de la science moderne, qui fait que la pensée unique, la fixité, et vous avez absolument raison, j'ai noté, hein, le fixisme, la fixité, qui est aussi bien la fixité des conclusions dogmatiques, qui ferait système, hein, comme s'il ne pouvait y avoir un système que de choses fixes. Tout cela c'est un peu cristallisé comme une espèce de vraie fausse méthodologie où on fait semblant en philosophie de faire de la science et on n'en fait qu'une caricature, alors que la science elle-même, dans sa recherche fondamentale, a lâché prise avec la question de la fixité. Elle est dans des phénomènes d'écriture où, à la limite, le réel dont elle parle, je ne parle pas du réel lacanien, là, vraiment du réel, de la réalité, le piège du réalisme, hein, c'est quelque chose qui, pour des vrais scientifiques, c'est une question en suspens. Hein. Revenons à l'homologie. L'homologie même est un terme de mathématiques.
C'est exprès que je l'ai pris.
Je vous remercie. Je vous montre que je l'ai entendu. Et il se fait que l'histoire des sciences, y compris des sciences mathématiques, est extrêmement riche. Kant, c'est le moment où, si vous voulez, la géométrie usuelle du citoyen qui achète un meuble chez Ikea et qui se débrouille avec son mode d'emploi, divorce d'avec les méthodes newtoniennes. Kant a été en retrait là-dessus, vous l'avez signalé, par rapport à la méthodologie. Newton a publié en géomètre des œuvres qui étaient produites en algébriste. Et Kant résiste à ça, il faut pouvoir montrer l'intuition. Les mathématiques kantiennes ne sont pas fausses, elles sont pauvres, elles ne sont pas fausses. Ce qui se passe, c'est que là, il est héritier d'un constructivisme qui a 2000 ans au compteur, hein, la géométrie euclidienne classique, dans lequel, pour faire des mathématiques, vous devez construire, vous devez faire des diagrammes, vous devez faire des mathèmes. Donc là, déjà, on pourrait dire que, peut-être sans le savoir, peut-être en le sachant, Lacan renoue avec une très longue tradition d'architecture des formes de pensée, qu'on retrouve dans l'art de mémoire de Frances Yates, qu'on retrouve dans le perspectivisme de la géométrie projective, qu'on retrouve même chez Descartes, le malin génie, au fond, c'est anamorphique. Hein. C'est comment s'assurer que c'est le bon point de vue, alors qu'il n'y a rien dans l'image que le malin génie va produire, il n'y a rien qui permette de déceler la fumisterie. Il n'y a pas des fils qui pendent, voyez. Ça, c'est déjà un propos que les philosophes universitaires ne voient plus, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire des idées scientifiques et mathématiques. Ils ne voient pas qu'à l'époque de la Lumière, on est passé d'une image réglée à une règle sans image, pour le dire d'une manière extraordinairement ramassée, et peut-être un peu obscure à force d'être simplette. Kant, lui, il est prémoderne de ce côté-là. Il appartient à une pensée très constructiviste. Le problème de sa pensée constructiviste, au niveau où il se place, c'est qu'elle est inexponible. On ne peut pas en faire un système. Ce n'est pas le système de tous les systèmes, c'est l'art des systèmes. Ça veut dire que c'est une pratique. C'est une pratique dans laquelle il peut y avoir des erreurs. Kant a fait des erreurs. Les deux éditions de la Critique de la raison pure, de 80 à 87, c'est un lâcher-prise par rapport à la première version où tout était rangé comme un jardin à la française, indûment, parce que là, ça ne tenait pas. Heidegger a fondé toute son interprétation sur la version A, et elle a bien tort, parce que c'est la moins phénoménologique des deux. Dans la seconde partie, c'est plutôt rhapsodique, la déduction transcendantale des catégories. Pourquoi ? Parce que le fixisme, qui était sa première tentation dans laquelle il s'était trompé, ça c'est ce que j'ai déjà publié comme bouquin, c'est ma première thèse, ce fixisme-là, mais simplement dans les choses sensibles, où on ne sait pas trop démêler le tien du mien, ce fixisme-là ne tient pas. Et donc il a pris un tour plutôt rhapsodique, ce qui pour un chantre de l'architectonique est un petit peu bizarre. Pour revenir à nos moutons, je vois avec l'architectonique plusieurs déterminations qui le rapprochent de Lacan. C'est là où je réponds enfin à votre question. Ce sont l'architectonique, la diagrammatique, les mathèmes, la topologie, ce ne sont pas des figurations de sciences exactes et rigoureuses touchant à des objets physiques, ni dans un cas, ni dans l'autre. Ce sont des diagrammes qui soutiennent la pensée et permettent surtout de ne pas se laisser constamment capturer, du côté de Kant, par le contenu des idées ou les images, du côté de Lacan, par les affects. C'est-à-dire que le réalisme, et j'en donne plusieurs définitions, dans lesquelles Kant baigne encore, eh bien c'est par exemple de se dire « c'est vrai que je suis en colère, donc ma colère est vraie ». Pour sortir de ce sophisme, il faut une méthodologie qui est celle qu'il applique pour la solution des antinomies de la dialectique, qui est de, au lieu de se demander éternellement, et il montre très bien la phénoménologie de tout ça, de délirer en se disant le monde a un début, une fin, ou alors il n'en a pas, et chaque fois il y a un raisonnement qui part, c'est de réaliser que les deux raisonnements sont symétriques, et que quelque part il y a une métastructure des raisonnements qui n'est plus quelque chose qu'on va raisonner, donc on va monter dans le train et tourner avec, ou dans la roue du hamster, mais de réaliser qu'il se passe certaines choses qui font que la pensée est prise, la pensée intellectuelle est prise, elle n'est pas encore rationnelle, dans un mouvement qui la transforme en marionnette.
Mais si vous me permettez...
Mais je vous en prie.
En ce qui concerne le modèle, bon, Lacan fait une critique de la notion de modèle en expliquant que c'est imaginaire.
Bien sûr.
Et que c'est pas ça qu'il veut faire.
Oui.
Néanmoins, je me permets quand même de faire remarquer qu'il inclut le réel dans le nœud borroméen.
Oui.
Et qu'à partir de là, on est peut-être un petit peu gêné au point de vue de la mise en place, si l'on a votre point de vue, parce qu'il y a quelque chose qui ancre le diagramme, mettons, d'une manière tout à fait spécifique et particulière, et oui, dont je ne suis pas sûr qu'elle intervienne dans l'épistémologie moderne. Vous avez peut-être des exemples.
Oui, mais je comprends. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'est un livre tellement court. Vous avez parfaitement raison de penser ainsi, parce que probablement nous n'avons pas été assez clairs pour éviter ce genre d'interprétation. Quand j'insiste sur le point d'homologie comme ne concernant que les méthodologies, Je commençais à me perdre dans un exemple que j'allais déployer trop, les antinomies. Ces antinomies, c'est là où on pense alors qu'il n'y a plus de réalité. Vous avez bien raison de me dire à ce moment-là, attention, quand même, il y a toujours un peu de réalité. Chez Kant aussi, il y en a aussi. La question du réalisme, elle était un point d'entrée pour montrer que chez Kant, il y a une réalité empirique dont on ne peut pas se passer. Cette réalité empirique, on la perd en même temps qu'on la transforme en idéalité transcendantale par un processus constructif, sur lequel j'étais un petit peu long, je pense, qui fait qu'on ne peut pas fonctionner dogmatiquement. Et là, je pense que Lacan et tout le monde ici serait d'accord. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de posséder le concept fixe pour en tirer des conséquences tout aussi fixes. Et ça, c'est certainement ce que Wolf, que critique Kant faisait. C'est certainement ce que l'on fait maintenant habituellement quand vous avez des angoisses, prenez des médicaments. Hein, il y a une angoisse type correspond à un médicament Z, si j'ose dire. Kant dit bien qu'il y a une réalité, Alors le réel, je vais tout de suite m'en occuper, le réel chez Lacan. Ce n'est pas la réalité empirique chez Kant, il faut faire attention. Il y a une réalité. Ce n'est pas un idéalisme dogmatique unilatéral. Je crois que le bouquin est très clair là-dessus. Mais alors, je veux terminer. Quel serait le réel? Puisque, encore une fois, vous insistez, je comprends, c'est tout à fait normal et légitime comme souci, d'essayer de vous raccrocher à des choses qui sont thématisables. Alors que je ne vous parle que de méthodologie, que j'ai plus en plus dire qu'elles sont fantomatiques chez Kant. Hein. On voit apparaître des éléments, et elles sont aussi fantomatiques chez Lacan. On ne peut pas dire qu'il y a une machinerie lacanienne qui vous donne des résultats, il suffit d'appuyer sur le bouton. Oui, pas plus chez Kant.
Vous avez raison, mais en même temps, je maintiens ma réserve.
Oui, et j'y viens maintenant.
C'est pas fantomatique.
Le réel lacanien, ce n'est pas le réel kantien, le sublime kantien. Ce serait la description de l'événement par lequel se produit un effet de réel. Voilà. Alors, il faut faire attention de ne pas plaquer une thématique sur une autre en disant est-ce que ça correspond parce que deux ou trois mots permettent de se repérer. Voilà, l'homologie est méthodologique. Je pense qu'avec ça, j'ai un peu épuisé mon temps de parole, je vais dire, parce que je fais toujours très long. Hein, Christian pourra me le confirmer et je lâche prise. Il y a beaucoup de choses, peut-être, que tu voudras...
C'est ça, mais je pourrais peut-être
intervenir
maintenant.
Je n'ai plus rien à avoir à dire, Christian. Déjà, il a dit à peu près tout ce que je voulais dire.
Ah bon? Ah oui, tu voulais parler avant.
D'accord, mais on se tait. Excusez-moi, je n'avais pas compris.
C'est une qualité, mais bon,
Mais je voulais dire, en tous les cas, que pour les objections de Pierre Christophe, je réserve ma réponse par accord.
Bien sûr, d'accord. Nous dirons.
Voilà. Alors, je trouve sont tout à fait importants.
Je vais penser en essayant de résumer un petit peu mon propos qui est d'une longueur épouvantable. En plus, c'est ça qui me voilà, c'est-à-dire
il n'y a pas que des objections dans ce que j'ai dit.
Non, il y a beaucoup.
Oui. Voilà. Je voulais...
Le fond de la démarche me paraît...
Je voulais discuter les éléments de que... Je ne les prends pas nécessairement non plus comme des objections ou des...
Aux objections, oui.
Je pense que ça ouvre en tous les cas une discussion que je ne veux pas laisser tomber.
Non, mais peur, je vais même essayer de raccourcir mon propos. D'abord, le piège du réalisme, je notais que cette opposition est une opposition foncièrement philosophique. Réalisme, idéalisme, je dirais qu'on peut se poser la question quand même pour la pratique de l'analyse du sens que peut avoir cette dénonciation du réalisme. Vous explicitez, je dis vous parce que vous êtes tous les deux, moi je ne connais pas le détail des chapitres, n'est-ce pas ? Vous explicitez beaucoup de formes du réalisme. Il y en a une quand même que je voudrais juste comme ça noter. C'est un réalisme tout à fait dur chez certains très grands philosophes qui trouvent que ça n'a pas beaucoup de sens de poser la question de l'existence de la réalité. Et j'évoque Aristote et Spinoza. Vraiment, pour eux, c'est un non-problème, la question. Mais je passe à l'articulation kantienne. Alors là, je supposais qu'il y aurait un certain nombre de personnes qui ne sont pas familières des textes kantiens. Et donc, du coup, je vais passer à une leçon un peu dogmatique dont je vous prie de m'excuser parce que pour vous, elle n'aura peut-être pas... Alors, je dirais que Kant récuse l'existence d'une réalité extérieure au sujet de la représentation. Tout ce que nous appelons réalité est soumis à l'unité synthétique du « je pense » qui conditionne les données sensibles à travers les représentations que sont les formes a priori de la sensibilité et les concepts purs de l'entendre. En ce sens, on parlera d'idéalisme transcendantal. Et c'est une position qui n'est pas endossée par vous. Vous avez bien distingué la méthodologie et des contenus de Kant. Mais je pense quand même que votre position antiréaliste s'en soutient d'une certaine façon. Car la position de Kant est complexe et n'exclut, comme vous l'avez dit, nullement une véritable réalité empirique. Il récuse en effet ce qu'il appelle l'idéalisme matériel de
contre-obsa, mais de Descartes, l'idéalisme matériel problématique de Descartes, qui dit Kant met en doute l'existence des objets dans l'espace. Dans le premier temps de ses méditations, le sujet cartésien n'appréhende en effet que de simples représentations et peut ainsi douter de toute autre existence que la sienne, alors que d'emblée, le sujet kantien perçoit l'existence de l'objet extérieur comme tel dans l'espace. Même si toute extériorité reste enveloppée par la conscience propre au « je pense », réalisme empirique et idéalisme transcendantal, et c'est quand même l'unité synthétique du « je pense » qui tient tout le dispositif. Donc il exclut le réalisme grossier, mais aussi le réalisme philosophique d'Aristote ou de Spinoza. Et à partir de là, je me suis posé une question qui était peut-être, bienvenue, parce que d'après ce que vous dites, je vois pas mal de réserves sur le contenu de cette question, mais j'ai du mal, vu l'exposé que je peux avoir de la doctrine kantienne, de voir une homologie entre la structure lacanienne et la construction kantienne qui est fondée sur le jeu transcendantal. Et là, je ne vois pas justement de rapport. C'est une question que je me suis permis de poser. Mais comme vous le dites très bien, et je l'avais noté dans mon texte, le livre pointe un moment apparemment secondaire de la critique de la raison pure, l'architectonique de la raison pure, qui apparaît comme une méthodologie qui insiste sur son application non à l'entendement, mais à la raison. Elle n'implique pas l'intuition, puisqu'il n'y a pas d'intuition qui corresponde aux idées de la raison. Elle met en œuvre une méthode qui permet d'organiser les idées entre elles, alors là, ça devient problématique, sans devoir les analyser complètement, en restant d'une certaine façon en partie libre pour leur contenu. C'est en tout cas ce que j'ai lu. Elle permet de raisonner diagrammatiquement sur les formes des idées, sans devoir se référer point par point au contenu toujours dialectique des 10 idées. Et ce qui est essentiel, c'est donc des propriétés formelles, l'organisation en un tout de parties qui ne valent et qui ne signifient que par rapport à tout, que par rapport à ce tout, pardon. Et Lacan est entrevu pour la psychanalyse une systématisation architectonique aboutie. Mais, et là c'est également un point qui me pose des questions, il n'y a aucun doute que le propos a en outre une partie générale, au-delà de Kant et de Lacan, et qui concerne le fonctionnement de la pensée, la création des idées, l'idéation, la production du sens sous forme d'idées. Et là, nous avons quelques remarques sur la pensée qui m'ont retenu. La pensée crée son objet, et vous décrivez une phénoménologie du surgissement de l'idée nouvelle qui semble advenir à elle-même, prenant en elle-même la force de son premier commencement. Ce qui illustre probablement l'énoncé selon lequel la parole apparaît comme un lieu de création continue de sens. Alors je sais bien que Lacan parle de créationnisme à propos de la relation du signifiant et du corps, évoquant discontinuité et rupture, mais c'est une métaphore. Ici l'application me semble toute différente et on est plutôt dans la perspective d'une véritable création intellectuel, un concept métaphysique quasiment, accompagné, me semble-t-il, donc c'est ce que je dis, d'une métaphysique implicite. Donc c'est ce qui me fait question. C'est ce que confirme la référence kantienne à l'autonomie. Et là encore, je dirais que pour Kant, là peut-être nous ne sommes pas tout à fait en dehors des thèses de Kant. Il y a un factum de la raison pure pratique. La loi morale me commande absolument d'agir selon le principe d'universalité. Vous allez peut-être me reprendre, mais enfin, j'ai foncé. La maxime de mon action ne doit pas être fondée sur le seul intérêt sensible, particulier. Il y aurait dans ce cas hétéronomie. Mon action serait soumise à la nécessité des lois de la nature. Mais en faisant de ma maxime le principe d'une législation universelle, j'introduis par mon acte une nouvelle législation dont je serai la seule cause, donc liberté, autonomie. En tant que sujet moral, je serai seul à la source de la loi de mon action. si l'on objecte que ça ne prouve rien sur le plan théorique, Kant répondrait, mais c'est une nécessité pratique de l'acte qui s'impose absolument. Je ne sais pas ce que ça vaut comme réponse. En tout cas, je me pose la question de ce point de vue. Voilà. Et à ce moment-là, le livre étant l'exercice de cette liberté à tous les aspects de la création intellectuelle, artistique, spirituelle ou philosophique, et va, me semble-t-il, jusqu'à un projet de repenser la nature humaine. L'être humain est ce qu'il va devenir. Si on considère l'être moral, par exemple, on peut dire qu'agissant en vue de sa propre autonomie, il découvre ce qu'il est en même temps qu'il le crée, voire pour tenter de comprendre comment il le crée. Moi, je trouve que là, on est un petit peu loin de la psychanalyse, je le dis franchement, mais bon, c'est à discuter. Et donc, à partir de là, est-ce qu'il y aurait, un soupçon pas peut-être très noble, mais est-ce qu'il y aurait un soubassement kantien ou même spiritualiste en général qui se manifesterait lorsque nous lisons qu'une raison pratique, vous le dites, suppose une raison pure, par exemple, hein? Alors à partir de là, il y a une remarque qui m'a paru très dense, c'est que l'hégémonie du savoir scientifique contourne, dites-vous, un espace vide et incomblable, celui de la causalité libre. Et alors là, exemple, auto-organisation du vivant, idéation avec architectonique comme méthodologie génétique de la pensée, parole comme lieu de création continue du sens, action qui s'inscrit dans le temps, même si elle prend son origine en dehors du temps. Diable. En dehors du temps, je fais quand même la remarque. Alors revenons un peu sur la science. Est-ce que le réalisme scientifique que vous avez beaucoup condamné, Pierre-Christophe aussi d'ailleurs, peut être confondu avec le scientisme? Le scientisme, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est pas au sens moral du 19e. Je suppose que c'est un discours de la science qui aurait l'exclusivité de la vérité. Il ne l'a pas, évidemment, mais il renvoie un type de vérité spécifique qui implique une objectivité, à mon sens, sans équivalent dans les autres discours. Dans la physique galiléo-newtonienne, excusez-moi de cette crasse qui fait peut-être problème, avec l'émergence des écritures, bien de votre avis, n'est-ce pas, il ne s'agit pas d'un simple changement de paradigme à la cune, du moins si je prends la lecture de Lacan. On rencontre ici la question du réel de la science, telle que Lacan l'a pointé, une écriture qui, loin d'être antiréaliste, comme vous semblez le dire, n'est-ce pas, opère le cernage de ce trou qui est le véritable objet de la science. Voilà ce que nous dit Lacan dans le séminaire de l'objet de la psychanalyse. Et non, bien sûr, les données sensibles qui ne sont phénoménales, qui ne sont pas l'objet de la science. Dans cette affirmation de l'émergence de la science, il y a la science. Voilà ce que nous dit Lacan. Est-ce qu'il a tort? J'en sais rien. Hein? Mais je veux dire que, est-ce qu'il y a dogmatisme ou statisme? Il n'exclut nullement, bien sûr, et ça, toute l'épistémologie contemporaine nous le dit, le remaniement des principes, l'englobement des articulations antérieures à l'intérieur d'articulations plus fines, qui donc ne disqualifie pas les articulations antérieures, et du coup, il me semble que le renvoi au réel a quelque chose d'inébranlable. Or, cette référence, comme celle du réel du sujet, manque presque toujours dans le livre que vous avez écrit. Là, je me corrige parce que j'ai trouvé deux beaux passages sur le réel à la fin du livre, dont peut-être auxquels je ferai référence. Et en revanche, qu'est-ce qui vous donne une sorte de, d'animation? Quel est le concept? Alors, ce n'est peut-être pas le concept clé de votre livre, transformation, mouvement, approche, devenir, qui est opposé à la fixation conceptuelle, n'est-ce pas? C'est au statisme de la pensée. Mais on est en face, pour moi, d'un concept général de type philosophique. La dynamique, le mouvement, la transformation. Bien sûr, il y a il y a des énoncés très remarquables. Je vais en citer un qui réalise in concreto cette thèse. Mais au départ, pourquoi préférer la dynamique par rapport au statique ? Est-ce qu'il y a une arrière-pensée bergsonienne ? Je n'oserais pas vous accuser d'une chose pareille. Mais voilà votre phrase qui est excellente. Le point de cristallisation du sujet de l'inconscient, nous dit le texte, signifie pétrification de la question, mais ordonnée et parfaitement structurée, c'est vous qui parlez, qui doit témoigner des mouvements de l'inconscient qui la produisent, mais aussi des mouvements que la cristallisation va permettre. Donc, c'est une très belle phrase méthodologique qui insère le concept de mouvement à l'intérieur alors de ce que vous appelez parfois un réalisme provisionnel qui est parfois effectivement impossible à éliminer. J'en reviens aux quatre formules qui sont censées illustrer cet espace vide et incomblable de la causalité libre. Je reste toujours dans cette perspective un peu critique. L'auto-organisation du vivant. Hommage à la critique de la faculté téléologique, texte magnifique, fondamental pour la pensée du vivant, même si l'évolution de la biologie semble en avoir un peu restreint la portée. Je pose la question. L'action, qui s'inscrit dans le temps, même si elle prend son origine en dehors du temps. Mais ce lieu d'origine, le caractère intelligible chez Kant, il me paraît bien mythique, comme si les créations de la pensée, après tout on peut se poser la question, était incompatible avec les déterminations de la structure. C'est pas impossible. Je renvoie à ce que Lacan nous dit de la sublimation et du cernage de la chose. Et il est bien certain qu'à ce moment-là, il raisonne à partir de la structure du sujet telle qu'il l'a posée. Et comme si l'acte moral, la partie de la loi kantienne qui nous fait quand même un petit peu penser plutôt au surmoi, pouvait nous faire accéder à notre être véritable. Je lis ça. Mais ça, c'est une philosophie, une métaphysique qu'on peut endosser ou ne pas endosser. Troisième point, la parole, sans aucun doute créatrice de sens. Mais l'équivoque ne peut-elle nous amener au point du non-sens, quelquefois, et nous libérer du sens à travers l'interprétation ? Je pense que là, la catégorie de sens est trop exclusive dans votre livre. Ça, j'ai pas vu le non-sens. Reste l'idéation avec l'architectonique comme méthodologie générale de la pensée. Le livre et spécialement son chapitre 5, là je me rencontre avec Pierre Christophe, qui me paraît le plus remarquable, en donne une illustration assez frappante. Il consiste en une lecture libre et inventive de Lacan, qui reprend ses écritures, par exemple, le quadrangle du cogito dans la section intitulée « Structure psychanalytique de l'acte ». J'ai particulièrement apprécié cette mise en place. Impossible de réduire le cogito, bien sûr, à une fulgurance simplement réaliste, ou un « je suis ce que je suis » où le sujet s'égalerait à Dieu, façade de carton qui cache les turbulences propres à l'inconscient, toujours en mouvement. Et donc à partir de là, il y a une analyse de l'acte, alors je voulais la reprendre dans le détail, mais je ne veux pas quand même prendre trop de temps par rapport... Mais elle me paraît vraiment très remarquable, avec la référence à un passage à l'acte, où le cogito met en place un être, mais en désactivant un tel être de toute pensée. Ensuite, une disjonction, ce qui est répété, c'est du même et de la différence. Le cogitant s'est alors fendu entre ou ne pas être ou ne pas penser. Et c'est seulement à partir de cette refente qu'il peut s'engendrer. Lacan est reconstruit complètement dans ce texte, et ça m'impressionne, mais je dis les choses comme ça. Parce que c'est le quadrangle de l'acte psychanalytique que j'ai dans la tête, évidemment. Et c'est la séparation fondamentale où quelque chose peut naître, s'engendrer selon la disjonction, ou ne pas être, ou ne pas penser. Ensuite, il y a l'acting out, qui garde la place de la pensée inconsciente. C'est la flèche vérité dans le quadrangle. La première, c'était la flèche aliénation. Ensuite, le point de départ, ça, c'est la flèche vérité. Et bon, il est question d'un accès pour la psychanalyse à une vérité vivante et au mouvement de pensée impliqué dans l'inconscient. Ça, c'est sûr, ça reprend effectivement l'élément de Lacan. Et enfin, la quatrième position, qui est la plus secouante, ne pas penser, ne pas être, lieu dévasté, plus de sujet pensant, plus d'être consistant, sujet barré ou moins fille, c'est la castration qui est censée pour Lacan être le résultat, en quelque sorte, de l'acte analytique pour le psychanalysant. Et là, c'est l'occasion peut-être encore d'approfondir quelque chose dans l'analyse. Je cite les choses qui sont là et qui me frappent effectivement. Alors, cet objet ptita qui est donc à cette place a valeur de pure illusion. Et le discours analytique serait un discours labile, faute de point d'appui réaliste, parce que vous avez expliqué que chacun des trois autres discours se référait à un réalisme provisionnel et permettait ainsi une construction, voire une capacité de tourner autour de lui-même, mais que dans le discours psychanalytique, il y aurait quelque chose qui d'une certaine façon manquerait, mais en réalité serait au contraire le facteur de mobilité de l'ensemble des discours. Et dès lors, on ne peut pas théoriser le discours analytique une fois pour toutes au risque de le réifier. C'est important, ça, parce que vous supposez que vous auriez une position propre et distincte de la position de Lacan. Et vous vous mettez dans la perspective d'une sorte de refondation du discours psychanalytique. Alors, je vais quand même encore continuer. J'en ai plus pour beaucoup. Alors là, je vais me faire méchant comme Pierre-Christophe. Reste alors l'objection fondamentale du réel absolu constamment évité dans les diverses formes de réalisme. Mais pour vous rendre justice, je dirais que le discours analytique tel qu'il est déterminé à la fin de ce chapitre 5 nous mène vers la chose avec un C majuscule, c'est-à-dire vers le réel lacanien. C'est ce que vous dites en tout cas. Et ici, la chose est identifiée ou nous mène. Pour moi, ça ne va pas, ça, hein, je ne suis pas d'accord. Mais je vais laisser ce point. Restons-en à la chose. Le texte nous dit que la chose s'imagine d'abord comme substance pensante en deçà et au-delà de tout phénomène. Et je reprends le texte, quitte à marquer les difficultés, avec la mise en place de l'objet ptita pensant, dites-vous, c'est l'impossibilité décidée de l'approche phénoménale, le rien qui décale radicalement la pensée. Et ce décalage aurait un effet essentiel. Et je cite, « Alors qu'elle semblait fonctionner dans et pour l'entendement et en rapport avec les phénomènes observables, entre parenthèses, la clinique, la pensée fonctionne maintenant comme un champ qui échappe complètement à l'observation. Dans le champ du nous-mêmes, la clinique devient expérience d'engagement éthique. » Loin de moi le refus de l'éthique dans la psychanalyse. C'est fondamental, la position éthique de l'analyste et aussi d'ailleurs de l'analysant. Mais je ne vois toujours pas ce que vient faire le noumène là-dedans. Je vais d'ailleurs encore en reparler si mes souvenirs sont bons. Le discours analytique devient l'agent provocateur pour le développement de la pensée en général. Et il y a une très belle formule où là, je trouve le réel. Partir de ce que l'on croit savoir, imaginaire, pour réaliser qu'en fait on n'en savait pas autant, symbolique, et que ce qu'il y avait à savoir non seulement est tout autre, mais encore qu'il redéfinit, un tiret le réel, car on a là ouvert une porte sur un vide vertigineux, ce que jusque-là on imaginait signifier quand on prononçait le mot savoir. Voilà le penser aussi bien en philosophie qu'en psychanalyse, là vous identifiez, on pense avec des auteurs, devant son analyste, ouvrir un espace. Alors, élusif, là je me demande si le mot n'a pas été changé par le typographe, hein. Je ne sais pas si c'est un espace d'élation peut-être, où la pensée semble toucher aux cieux. Là on a presque un vocabulaire théologique, probablement lié à l'enthousiasme que peut produire une création intellectuelle. Alors, l'analyse se redéfinit en nous redéfinissant. Là, vous avez quand même une visée qui est extrêmement forte, qu'on l'approuve ou qu'on ne l'approuve pas. Et je vais terminer, il ne me reste plus qu'un paragraphe, excusez-moi. J'écarte la référence au nous-mêmes, encore, qui, contrairement à la chose et au réel, hors symbolique, reste pensable. Jamais le réel, il est hors de la pensée, d'une certaine façon. Et donne lieu, là vous m'excuserez, à toutes les projections imaginaires de la pensée kantienne. Et là, nous en avons un, hein, de ce point de vue. La raison pure, elle en fait du chemin dans cette affaire. Il est seulement hors entendement. Vous n'auriez pas pu dire qu'il était hors raison, hors peut-être que le réel de Lacan. Mais ça n'exclut nullement une raison pure, créatrice. Et là, votre position est une position métaphysique que personnellement, je ne peux pas endosser, n'est-ce pas ? On voit aussi que le penser réunit philosophie et psychanalyse, mais dans un champ qui échappe complètement à l'observation. Engagement éthique, pourquoi pas, mais avec les connotations spiritualistes que j'indiquais plus haut, l'autocréation dans la pensée pure. N'y perd-on pas là la psychanalyse ? Ou alors, excusez-moi, s'agit-il d'un effet de la cure ? C'est une question que je me suis posée. Enfin, que devient le rapport sexuel, dont il n'est jamais question dans votre livre ? Je reviens à l'idéation. Moi, pour moi, c'est un livre sur l'idéation, fondamentalement. À la capacité créative incontestable de ce livre, qui est le véritable centre du propos. Et je dirais que c'est à cela que je suis sensible, et à la très grande qualité de cette idéation, de cette invention, qui m'a un peu stupéfait quand j'ai vu la façon de traiter les repères diagrammatiques de Lacan. Mais pourquoi pas ? C'est bien, c'est très intéressant. Donc j'en reviens à l'idéation, à la capacité créative incontestable dans ce livre, qui est le véritable centre du propos, à mon avis. Ne faut-il pas l'ancrer pourtant dans une expérience qu'il y a à manifester, je ne sais pas, quelques comptes rendus de cure, pour témoigner qu'il ne s'agit pas simplement, ce serait déjà pas mal, d'une philosophie. Voilà.
Merci, merci. Christian, c'est pour toi.
Merci, mais tu me laisses le beau morceau.
Mais oui, non, mais
c'est très intéressant tout ce que tu amènes. Mais je vais peut-être recommencer, revenir sur des questions qui m'apparaissent plus, peut-être plus faciles, plus fondamentales aussi, donc plus directement en pratique. Prise sur la pratique.
Mais réponds à Pierre-Christophe aussi.
Oui. C'est ce que je vais faire. S'il y a des choses qui échappent, je pense qu'il faut revenir dessus. Parce qu'il y a tellement de choses que tu évoques que je pense qu'il faut que vous les rappeliez. Moi, il me semble, pour reprendre le thème de l'homologie, qu'il y a quand même une homologie très forte, et qui est important de souligner si on veut tenir compte à la fois de ce qui était évoqué, de l'inconscient, en tant qu'il serait absent chez... Enfin, oui, qu'il est fondamentalement absent chez Kant, et du réel, je veux dire lacanien. On a chez nos cliniciens habituels qui malheureusement ne sont justement pas là.
Ils ont voté.
Ils ont voté avec leurs pieds.
Ils ont voté avec leurs pieds, bien sûr.
C'est mais sabotage.
C'est
sabotage.
Il faut l'entendre aussi.
C'est quand même quelque chose de remarquable. C'est si je me trompe, qu'il y a peut-être madame est clinicienne, mais je ne sais pas. En tous les cas, il y a une absence des purs cliniciens, on pourrait dire. Or, les cliniciens font référence à quelque chose régulièrement, enfin au moins dans certaines écoles, à quelque chose qui amalgame l'inconscient réel, vous aurez reconnu bien sûr toute l'école de Colette Solaire, avec, je ne sais pas ce que Colette Solaire veut dire, mais enfin, ce qui s'entend là-dedans, c'est quand même quelque chose où on pense pouvoir pointer une réalité effective qui devrait servir de plus de guide absolument sûr et certain pour le clinicien. Eh bien, je pense que c'est une espèce de catastrophe qu'on propose pour la formation de nos cliniciens, parce que précisément, il n'y a pas la remise en question de cet inconscient, ni la remise en question de ce réel en les accolant l'un à côté de l'autre. Et que ça, c'est fondamentalement, me semble-t-il, anti-lacanien aussi. Je vais m'expliquer pourquoi.
Il n'y a pas que chez Colette Soler.
Il n'y a pas que Colette Soler, voilà.
Oui. Chez nous, c'est pareil. Hein.
Oui. Et, bon, mais donc, l'homologie, je pense, excessivement présente chez Lacan, aussi bien que chez Kant, bien sûr, autrement ce ne serait pas une homologie, c'est de tenir compte d'antinomies. Bon, je ne vais pas reprendre la question des antinomies de Kant, mais chez Lacan, tout fonctionne en pointant des antinomies. Et je pointe, par exemple, l'antinomie du sujet de la parole et du sujet de la langue. Il est évident que ce n'est pas possible d'être en même temps celui à partir duquel la parole sort et en même temps être celui qui est parlé. Et ça, Lacan en tient compte. Et en tient compte effectivement, non pas par un tour de passe-passe, puisque dans position d'inconscient, c'est très clair, il l'articule comme quelque chose qui doit être articulé.
Est-ce que tu le mets en rapport avec S1 et S2, ça, non ?
Pas directement, mais en tous les cas, non. Bon, pas directement, mais enfin, je pense en tous les cas que c'est des antinomies qui sont marquées.
C'est encore une antinomie.
Oui, oui. Et qui sont marquées dans toute sa façon de penser. Si on prend les formules de la sexuation, c'est un assemblage d'antinomies. Il n'y a pas moyen de comprendre ces formules de la sexuation si on ne tient pas compte de ces antinomies. Là, de nouveau, nos cliniciens, ben, ils se contentent de dire, voilà, on a les masculins et les féminins, et puis on va coller les trucs. Je pense que ça ne tient pas la route. Donc, Lacan tient compte de ces antinomies, et qu'est-ce que Kant en a fait de ces antinomies qu'il découvrait dans la métaphysique ? Il en a déduit qu'il fallait partir du principe suprême des jugements synthétiques a priori, à savoir que nous ne pouvons pas parler de l'objet sans parler de l'expérience qu'on a de l'objet. C'est précisément le même type de réponse qui est toujours mis en avant dans la façon de penser de Lacan. Mais il y a toujours ce côté, on pourrait dire, dénonciation et dénoncé qui vont ensemble. En tous les cas, on ne peut pas faire l'impasse sur cette affaire d'un faire pratique de notre théorie. Chez Lacan, il en tient tout le temps compte.
J'ai tout trouvé, toutes mes vérités, je les ai trouvées dans la pratique.
Exactement. C'est ça. Il les a fait. Hein. Et ce n'est pas une pratique d'un clinicien qui viendrait ça comme ça observer les choses. Hein. C'est tout à fait autre chose.
Il ne l'entend jamais le mot clinique.
Mais c'est voilà.
Non, mais il ne change pas les catégories de névrose obsessionnelle, d'hystérie, etc.
Ça, c'est une autre question. Hein. Non, mais on ne peut pas répondre à tout à la fois. Mais je pense que ce principe est absolument assuré chez Kant. Et que donc, dans ce sens-là, il y a quelque chose de très semblable et qui n'est pas courant. C'est pas courant que les gens font ça. La preuve, l'absence des cliniciens est là pour nous montrer
que c'est
vraiment pas courant. Parce que c'est bon. Donc, il y a là quelque chose d'absolument semblable, et ça, on pourrait dire que ce principe des jugements synthétiques a priori est au cœur de ce qu'on pourrait dire l'architectonique chez Kant et la topologie chez Lacan. Il n'y a pas de topologie chez Lacan, me semble-t-il, si on tient uniquement compte des objets sans tenir compte de l'action qu'on a sur les objets.
Il y a quand même la question du réel que je m'étais permis de développer.
Je viens à la question du réel.
À propos du neubomia, de son écriture.
Je viens à la question du réel. Mais d'abord, je fais remarquer en tous les cas qu'il y a cette homologie de structure qui me paraît absolument claire. Maintenant, la question du réel. plus réel chez Lacan. Lacan nous dit bien sûr que le réel doit servir de guide pour le clinicien, mais ce réel, ça n'est pas ce qu'un peuple pense, c'est-à-dire quelque chose que nous aurions sous la main d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Ben, tu es bien veillé pour le savoir, Hubert, hein, avec ton livre qui insiste justement sur la façon de penser ce réel.
C'est pas la réalité du tout.
C'est pas la réalité.
Et c'est pas la réalité kantienne non plus, qui est très consistante.
C'est pas du tout la réalité kantienne.
Par contre, les deux réalités, chez Lacan et chez Kant, se ressemblent.
C'est ça. Oui, oui. On est bien d'accord. Là, on est tout à fait d'accord. Hein. C'est vraiment pas la réalité kantienne ni la réalité ordinaire. Maintenant, la question du réel, qui naturellement a une écriture dans le Boromère. Mais pourtant, on sait aussi que c'est une écriture, donc c'est un Aderon qui est écrit comme le réel, mais pour Lacan, et très explicitement, ce réel écrit dans le nom borroméen, c'est une façon d'imaginariser le réel. Et la preuve, c'est qu'il a une consistance, et la consistance relève de l'imaginaire. Et Lacan ne mâche pas ses mots et revient plusieurs fois pour dire que le réel, c'est le nouage, c'est-à-dire qu'il n'a aucune consistance, si je puis dire consistance, enfin, il n'a aucune existence si il n'est pas il n'est pas noué avec les autres.
Hein. Bien, il n'a aucune existence s'il n'est pas noué. Il n'a aucune consistance si ça n'est pas une corde. Oui. L'existence, c'est justement le nouage.
C'est ça.
Hein. Enfin, ça veut dire le contraire, mais c'est lié au nouage. Et donc, il n'y a de nouage que s'il y a une existence. Donc, trois existences.
Donc c'est lié à la complexité de la chose, sans laquelle on peut dire aucune des parties n'existe. S'il n'y a pas, si on retire l'imaginaire en pensant qu'on va garder le symbolique et le réel, on n'a plus rien du tout.
Reste l'image mentale du nœud, mais il fait bien la différence avec le nœud réel. Donc là, parce que ce que tu dis, c'est que ça a un aspect imaginaire dans la représentation, le réel, quand tu dessines le nœud. Mais ça, c'est vrai qu'il ne faut pas en rester là. Il le dit clairement.
Et pour ne pas en rester là, il me semble fondamental, justement, de ne pas réduire ce réel à un réalisme. Il n'existe que par le nouage et par l'opération du nouage que nous faisons. Tous les cas, nous ne pouvons l'approcher que comme ça.
Ah, c'est autre chose.
Il y a une question, il y a un point qui est soulevé dans RSI sur ce sujet précis, où Lacan parle à propos du nœud mental.
Oui.
C'est-à-dire ce nœud qui serait en quelque sorte, si on comprend ce qu'il dit, indépendant de son inscription sur le tableau. Il y a un nœud mental.
Oui, exactement.
Il était donc déjà là, et là il s'amuse à la formule voltairienne. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer, ou une phrase comme ça.
C'est ça, donc il faut l'inventer.
Il faut l'inventer, mais s'il n'existait pas. C'est-à-dire qu'il était quand même là.
Oui, il y a un aspect symbolique du nœud, c'est la définition verbale du nœud. Il y a un aspect imaginaire du nœud, c'est la représentation figurée du nœud. Et puis il y a l'aspect réel du nœud, qui est absolument irreprésentable. C'est le réel du nœud en tant qu'absolument irreprésentable.
C'est imaginairement représentable.
Mais ça, c'est l'aspect imaginaire du nœud.
Oui.
C'est le versant imaginaire du nœud. Alors que le versant réel du nœud est par définition irreprésentable.
Mais alors,
l'imaginarisation du réel, je ne suis pas d'accord.
Oui. Alors il y a la question de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à ce côté réel du réel, si je puis dire, hein, donc que tu pointes.
Oui.
Alors ce réel du réel, on peut, je m'excuse d'employer imaginer, mais enfin c'est ce qui me vient, l'imaginer comme un réel qui est là et qui suit. Hein, mais on peut, d'une façon beaucoup plus forte, dire qu'on ne peut y toucher, c'est d'ailleurs ce que Lacan dit, que par la catégorie de l'impossible. C'est-à-dire la catégorie de l'impossible de notre façon de faire. Autrement dit, si nous ne nous y mettons pas, nous ne n'y touchons absolument pas.
Pas d'objection.
Ça, tu n'as pas d'objection.
Hein.
Mais est-ce que l'interprétation que j'ai proposée d'une lecture, je dirais, transformationnelle du réel par l'écriture et celle que tu fais, c'est bien ça,
transformationnelle.
L'idée que si on prend le symptôme, par exemple,
le séminaire sur le symptôme.
Oui. C'est quand même, il me semble que ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire,
c'est l'idée
que Lacan ne s'arrête pas, contrairement à la clinique classique, à une représentation du cas clinique. Il en propose plusieurs versions.
Voilà, exactement.
Et donc tu es d'accord avec ça ?
Absolument, absolument. Non, j'étais tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur le symptôme.
C'est dans le séminaire du symptôme.
Ah ben oui, il y a 4 nœuds différents.
C'est exactement ma lecture du symptôme qui va paraître d'ailleurs.
Ah ben voilà, c'est ça.
Ça recouvre vraiment ça. Donc il n'y a pas de réel hormis cette.
Non, mais ça remet en cause quand même largement la clinique classique.
Absolument.
La psychiatrie classique, où l'abord du réel, et même les catégories de névrose, de psychose et de perversion. C'est-à-dire on a les catégories de névrose, psychose et perversion, mais on a une possibilité de travailler sur ces catégories liées aux nœuds qui font qu'on n'est plus dans une approche fixiste.
Tout
on,
à fait.
On
autre.
Peut plus.
Donc il y a la possibilité d'une transformation, c'est ce que...
Non, il y a la possibilité d'une transformation, mais aussi par rapport à ce que dit Christian, il y a le fait que l'analyste ou celui qui réfléchit au réel auquel il a affaire peut poser des nœuds, peut écrire des nœuds différents sur ce à quoi il a affaire.
Et c'est ce qu'il a de mieux à faire.
Et c'est peut-être ce qu'il a de mieux à faire.
Et de ne pas se tenir compte à un seul nœud qu'il a inventé, qui va plus ou moins.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, donc dans cette position, il y a aussi une conséquence éthique.
Absolument.
C'est-à-dire que immédiatement après qu'on a posé cette idée qu'il n'y a pas de fixité du réel du fait de la possibilité d'avoir plusieurs angles d'attaque de ce réel, on dit que éthiquement, il est préférable d'être dans cette position plutôt que d'être dans une position fixiste. C'est ça.
Oui.
Mais enfin, une pluralité d'angles d'attaque, c'est quand même du même qu'il s'agit.
Ça reste du même, mais c'est toujours le même, bien sûr.
Oui, mais le même. Comment est-ce qu'on va le pointer ? On dit psychose, perversion et névrose. Mais psychose, perversion et névrose, c'est des catégories qui sont délimité dans la clinique et dans la pratique en fonction de la réalité, d'une réalité supposée stable. Or, si nous plaçons d'un autre point de vue, bien sûr, la personne est la personne momentanément, enfin ça se présente comme ça, mais les choses peuvent être complètement, avoir une dimension beaucoup plus large que simplement de fixer par exemple, la psychose dans le fait que bon, il a perdu la réalité et il faudrait la lui faire retrouver.
Non, mais est-ce que la structure psychotique, qui a quand même beaucoup de détermination, tu peux penser qu'elle est que quelqu'un peut en sortir et se retrouver dans la névrose obsessionnelle?
Je ne vais pas passer d'une structure fixée à une autre structure fixée. Alors, que bon, tu admets, que je n'admets pas comme
bon,
a priori,
bon, je
mais je prends. Mais je prends l'article quand même central de Lacan, d'une question préliminaire à toute question de la psychose. On arrive à la conclusion, enfin la dernière phrase est à peu près ceci, hein. Il ne sert à rien d'employer une technique c'est pour âner à la rame alors que le navire est sur le sable. Bon, alors on peut entendre ça, il ne sert à rien si tu es psychotique de faire une psychanalyse puisqu'il il a échoué sur le sable. Ce n'est pas juste. Tu es d'accord que ce n'est pas juste. La question préliminaire pour tout traitement de la psychose, la question préliminaire, c'est la question du sujet. C'est ça qui est mis préliminairement dans le texte, ou préliminairement si on veut aussi, la question de la perception, de la mise en question de la perception, mais qui implique tout sujet. C'est ça la question qu'il faut poser préliminairement, et pas la question de savoir est-ce que j'ai affaire à un psychotique ou non. Il dit très bien dans son texte, il nomme même ça une question à l'endroit de la structure du sujet. Il dit c'est la question du sujet. C'est la question qui vient la première sous terme de question.
Mais la question du sujet, quand même, peut se poser dans des articulations diverses, avec, oui. avec les abîmes relatifs
Absolument.
De
Absolument.
La psychose, de la névrose. Enfin,
mais bon. Si on part du point de vue d'une réalité clinique, psychiatrique, etc., d'un réalisme fondamental, eh bien, je regrette, mais on est déjà en dehors de la question préliminaire. La question préliminaire n'est même pas posée. Elle est court-circuitée.
Pour moi, je suis d'accord.
J'ai pas d'objection.
Alors, puisque c'est tout le monde est d'accord, c'est... je voudrais simplement recoudre quelque chose. Non, s'il vous plaît. La discussion que je viens d'écouter, c'est une discussion au fond d'épistémologie. On a commencé à se battre sur le sens très très exact, mais en gros. Et là, quelque part, en vous remerciant d'ailleurs toutes vos remarques sur Kant, je voudrais juste souligner que si on était dans un truc à deux, hein, RSI c'est trois, un truc à deux dans lequel ou bien on a l'empirisme humien, c'est-à-dire vous avez votre patient, vous avez votre analysant, il apporte sa moisson de faits, de data, etc. Ou alors si vous êtes du côté de Wolf, vous avez une dogmatique extrêmement fixiste. Si ça se joue à deux, les deux implosent l'un dans l'autre, et voir, c'est connaître, et connaître, c'est voir. On est dans le réalisme transcendantal. Pour déjouer cela, éviter les problèmes de l'antinomie, qui se pose encore plus d'ailleurs au niveau du sujet de la liberté, qu'il se poserait dans la question du mode d'emploi IKEA, hein. Il faut une troisième instance. Cette troisième instance, elle n'est pas là juste pour faire joli. Vous pouvez la mettre en première, en seconde ou en dernière position. Et votre question du noumen qui se discute à perte de vue, c'est ce que j'appelais déjà il y a 30 ans un concept béquille. Mais ce n'est pas là que ça se joue. Ça se joue dans le fonctionnement. Ou bien on est dans du fixisme de réalisme transcendantal, avec toutes les apories terribles que cela pose. Ou alors on tient compte de ces apories au lieu de les refouler, et à ce moment-là on doit faire intervenir une troisième instance qui est la raison, et dont le rôle est quasiment invisible dans le domaine, je dirais, de l'expérience sensible et physique, mais devient beaucoup plus importante, comme vous l'avez souligné maintes fois à l'occasion du sujet. Et là on est dans une structure où vous ne pouvez pas vous satisfaire de deux termes, même si toujours déjà c'est avec deux termes que vous travaillez. C'est-à-dire, ou bien on est dans la raison et l'entendement, ou bien on est dans l'entendement et la sensibilité. Et dans la troisième critique, on est dans une espèce de court-circuit très difficile à conceptualiser entre la raison et la sensibilité, vu qu'ils n'ont pas de point de contact, comme vous le savez. Cette structure-là, à trois, il faut prendre un grand recul pour la percevoir. Elle est homologique. Je n'ai pas dit qu'elle est analogique ou identique. Elle est homologique dans son fonctionnement, qui fait que si vous tombez dans un truc à deux, vous êtes dans du réalisme transcendantal et vous ne pensez plus. On est dans cette fixité que vous avez tous les trois dénoncée. Que si on est dans le dogmatisme, là on est dans une espèce de raison pure qui se confond avec une pure intellection, l'entendement. C'est-à-dire chaque fois, il ne faut pas oublier. Donc c'est une manière aussi de dire, voilà un exemple de l'homologie. C'est aussi une manière de répondre, la réalité empirique n'a jamais disparu chez Kant. Mais à partir du moment où vous raisonnez sur la structure de la science, elle est pour ainsi dire réduite à un état d'horizon. Quand vous êtes en train de chercher vos chaussettes dans un tiroir, la question de la raison, elle est à son tour réduite à un effet d'horizon. Elle n'est jamais totalement absente. Sinon, on devient vraiment fou dans le sens ordinaire du terme et un petit peu crasseux. Donc là, quelque part, c'est une manière aussi de, et j'en ai fini avec ça, de dire, toute votre discussion, elle est instantanément traduisible en termes kantiens, pour autant qu'on réfléchisse avec Kant, au lieu de se saisir des objets en disant, alors le noumen, on le met où? Alors la liberté, on la met où? Par rapport à une espèce d'armoire préfabriquée qui serait le lacanisme pour les nuls, ou la psychose, le machin, le truc, chaque fois ont des déterminations dogmatiquement fixes. Et là, on est dans le flou absolu. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'est une question de méthodologie que vous venez de discuter. Une méthodologie qui est évidemment tout de suite retentie sur la clinique, dans la manière d'aborder la chose. Il n'y a pas cette méthodologie, vous tombez dans la distribution de produits stupéfiants légaux, ça c'est une des veines américaines de la dérive, hein. Moi, j'ai des amis qui sont tombés dedans, enfin qui font d'automédication un peu folle, dans un réalisme concret, extrêmement dommageable au point de vue philosophique et au point de vue... voilà. Et avec ça, ça n'en fait pas une philosophie. ça n'en fait pas une philosophie dans le sens d'une position idéologique qui chercherait à retrouver son bien chaque fois qu'elle réfléchit. C'est une, et je vais finir avec ça, je souscris totalement à votre analyse, c'est un livre sur l'idéation. Donc c'est interminable, évidemment.
Mais la lecture que vous faites, bon, ça veut dire qu'il faut 3. Mais avec Lacan, le 3, ce n'est pas la raison. C'est le réel. Et ça, je pense quand même qu'il n'est pas chez Kant et que ça change beaucoup de choses, que vous le vouliez ou non.
Oui. Je ne comprends pas votre phrase. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas le réel. Ça me semble être des phrases bien trop courtes pour...
Mais non, parce que la raison, c'est le nous-mêmes. Et la raison, c'est tout ce qu'il en a fait, c'est-à-dire les projets. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a la méthodologie que vous avez remarquablement, d'ailleurs, commentée. Mais il y a tout de même... même chez vous, il y a un peu de... Comment dire, l'autocréation de soi, c'est de la métaphysique nouménale. Qu'est-ce que c'est par rapport à... Je ne vois pas comment on peut éviter ici une référence métaphysique à la raison. Et chez Lacan, elle n'y est pas.
On va laisser ça en suspens, parce que je ne veux pas prendre du temps sur ce que tu as beaucoup de choses à dire, Christian. Bon,
mais moi, je voulais, parce qu'on a surtout parlé de ce que Pierre-Christophe avait attendu, mais je voudrais reprendre certaines choses que tu as repris. Et notamment, tu as parlé de l'analyse qui se définit ou que se redéfinit, etc. Et tu as parlé comme si c'était une méta-psychanalyse ou au-dessus de Lacan ou je ne sais trop quoi. Enfin, c'est dans ce sens-là que tu as évoqué quelque chose.
C'est une lecture libre de Lacan.
Exactement.
Mais ça ne me dérange pas, ça, du tout.
Mais moi, je pense que si on veut être lacanien, on ne peut faire que comme ça. Autrement dit, je donne tort à tous les absents qui croient qu'il suffit d'avoir quelques formules ou éventuellement bien expliquées.
Là, je vais te répondre.
Oui. S'ils ne réinventent pas, ils sont foutus.
En matière d'idéation, tu es champion, Christian. Je ne dirais pas le contraire.
Et en matière, je parle de la psychanalyse. Je pense que si on veut former des psychanalystes...
Ils font de la topologie, je ne sais pas trop ce que ça donnera, mais enfin...
Mais il faut qu'ils inventent, il faut qu'ils réinventent la psychanalyse. S'ils ne le font pas, ils sont foutus.
Tu demandes à un psychanalyste qui est passé par Freud et Lacan, les deux fondateurs de la psychanalyse, d'être à son tour un fondateur de la psychanalyse.
Absolument.
Allez-y.
Je vous assure que j'en connais.
Très sceptique. Je voudrais en connaître et lire leurs bouquins.
Moi, j'essaye de former en tous les cas les gens dans ce sens-là.
Mais je vois bien. Mais c'est pour ça qu'en même temps, il y avait un peu un appel à quelque chose comme une référence concernant la cure analytique.
Oui, mais c'est tout à fait judicieux.
Faut montrer que la rénovation de tel ou tel concept ou terme, c'est quelque chose qui a un effet sur l'analysant. Moi, je pense par exemple à une chose très simple dont je n'ai pas parlé, c'est il y a du réel si l'interprétation réussit. C'est par rapport à ce qu'il dit dans RSI. Il y a une équivoque et à ce moment-là, il parle de sens réel, si mes souvenirs sont bons.
Effet de sens réel.
Effet de sens réel. À ce moment-là...
Réel de l'effet de sens.
Ou réel de...
Effet de sens réel.
Bon, et à ce moment-là, là, je vois le réel, effectivement, dans la cure, tel qu'il intervient. Et parce que ça ne réussit pas bien souvent.
Et ça ne réussit à peu près jamais
si
l'analyste n'a pas inventé les choses.
Je n'en sais rien.
En fait, tous les cas, moi, quand j'entends quelques analystes qui me parlent en supervision et qu'il a inventé quelque chose qui était vraiment pas catholique, si je puis dire, c'est-à-dire qui ne se fait pas, eh bien, moi, je suis particulièrement intéressé, beaucoup plus intéressé que quand il me dirait « j'ai appliqué... »
Non, mais ça, d'accord. Mais simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a, dans ce cas-là, un effet sur le réel et que ça peut avoir des effets tout à fait positifs ou du moins des effets, en tout cas, chez l'analysant. Et ça, c'est tout le problème. C'est celui d'une efficacité symbolique. on peut bien effectivement inventer, reformuler, mais il reste à savoir ce qui se passe du côté, par exemple, du réel de l'analysant. Et donc, c'est ce que Freud, il était obsédé par ça, Freud, il n'arrête pas d'en parler. Lacan n'en parle pas beaucoup, ça c'est vrai, c'est un problème. Il s'amuse à faire de la théorie, il n'y a que ça qui semble l'intéresser, et il y a très peu de références à sa pratique.
Bah, c'est la théorie quand même d'inventer des choses toujours nouvelles.
Je suis personnellement...
C'est une théorie quand même très pratique. Quoi.
Fasciné, oui, c'est très pratique, mais il n'indique pas le chemin. Tandis que là, avec l'interprétation, il le donne, effectivement. C'est rare dans les derniers séminaires. Et donc là, il y a quelque chose qui est censé toucher au réel et qui, d'une certaine façon, laisse de côté l'idée de sens que tu ne sembles, enfin, avec laquelle tu prends jamais de distance.
Ah, moi, c'était un point sur lequel je voulais revenir parce qu'il est... Ah, ben, donc je vais y revenir, j'y viens tout de suite,
bon,
si
allez,
tu
je
permets.
Te laisse, je te laisse.
Non, tu voulais.
Non, mais c'est bon.
Mais je pense que le non-sens est absolument présent et une place fondamentale dans ce qui est quand même tout à fait mis en évidence dans le cinquième chapitre, à savoir le ne pas être et ne pas penser.
Oui.
Ça, c'est vraiment... Il n'y a plus rien, il n'y a pas de sens. Hein.
Donc c'est le réel ici.
Allez, ah, ça touche au réel.
C'est bien pour ça que finalement, en lisant la fin, je me suis dit, ils en parlent quand même du réel. Mais c'est vrai, c'est très impressionnant d'ailleurs ta référence. Mais en même temps,
mais c'est fondamental parce que c'est alors toute la création qui démarre de là, mais pas seulement du sujet. Pas du tout même du sujet, puisque cette position n'est pas la position subjective d'un sujet ou encore moins d'un individu ou d'un personnage, mais c'est la position même dans la structure et qui est éventuellement qui touche à quelque chose de l'inconscient, là, justement. Parce que l'inconscient, on risque toujours de le prendre comme un truc qui est non connu, mais enfin, ça pourrait être connu demain, ou bien le psychanalyste peut connaître. Mmh. Ce qui est naturellement, on est bien d'accord.
Non, moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment l'interprétation pour toucher à ce moment-là, si elle marche, parce que ça ne marche pas toujours.
Hein. C'est ça. Et pour avoir l'interprétation qui touche l'inconscient en tant qu'il y a aussi ce non-sens, donc cette quatrième position.
Oui. Et même, il a dit mêlement des éléments littéraux, par exemple, qui brusquement se séparent en quelque sorte du registre du sens. Mais là, bon, on est d'accord, c'est pas...
Mais pointer les éléments littéraux est aussi dangereux.
Ah oui, il ne faut pas les pointer comme ça.
Parce qu'on voit, par exemple, dans le psychanalysé de Leclerc, il a cru avoir... Bon, c'est joli, bien sûr, mais enfin, c'est mener les analystes sur une mauvaise piste, hein, parce que s'ils espèrent... s'ils sont à la chasse, comme ça, de lettres qui vont...
Non.
C'est de nouveau un réalisme catastrophique.
De toute façon, ce n'est pas par les lettres qu'on arrive
aux
lettres.
C'est la boîte aux lettres.
Non, mais c'est pas par les lettres qu'on arrive aux lettres.
Si je peux me permettre, je voudrais intervenir. J'ai cette position en retrait qui est facile aussi pour vous voir penser et ne pas être trop pris par cela. Donc, une position architectonique. Vous avez eu une discussion là sur... Vous êtes franchement opposé sur la réinvention. Moi, je vote pour Christian, évidemment. Par rapport au risque de cette réinvention, je comprends très bien. Et je voudrais vous préciser ceci qui est d'ailleurs dans le fil rouge du livre. Pour Kant, en mathématiques, on invente et on tombe juste. Il faut arrêter de penser que les mathématiques kantiennes, et les mathématiques en général d'ailleurs, ce soit une manière de scanner le réel pour en détacher une structure qui viendrait très commodément se mettre dans une écriture algébrique illisible au profane. C'est une invention avec toute l'artificialité que cela peut comprendre. C'est ça le jugement synthétique a priori dans sa matrice géométrique qui permet après de penser tout le reste. On tombe juste. On réinvente et on tombe juste. Votre discussion, c'était au fond dans la théorie transcendante, dans la méthode. Il y a deux manières de savoir, dit Kant. Cognitio ex datis, d'après les informations. Cognitio ex principis, d'après les principes. Et il dit, quelqu'un qui aurait appris dogmatiquement les éléments de la philosophie de Wolff, il peut vous le réciter, vous en chipotez un, il y a tout qui s'effondre parce qu'en fait, il ne sait pas ce qu'il raconte. Par contre, à partir des principes, il est constamment dans un processus de réinvention qui retombe et qui restitue une certaine, je dirais, fidélité à l'auteur, ici Wolf, mais ça peut être autre chose, ça peut être Lacan. Alors maintenant, tout n'est pas toujours possible dans ce sens-là, nous ne faisons pas que des mathématiques. Je vois que là où il y avait une dissension, c'est que dans le cas qui nous occupe, nous ne sommes pas dans la situation bienheureuse où on construit le réel de la géométrie. Et le réel de la géométrie, c'est vraiment très peu de réel par rapport à tout ce que nous approchons. Ce qui fait que là, il n'y a du réel que si l'analyse réussit. On est plutôt dans une question qui fait penser à la critique de la faculté de juger, c'est-à-dire qu'il y a un grand risque. Et est-ce que cette réinvention, qu'il faut entendre dans le sens, je dirais presque musical, on ne demande pas à un pianiste de jouer comme sur la partition, comme si c'est un piano mécanique, pouvait le jouer. Il y a toujours une réinvention, mais cette réinvention ne doit pas jazzifier Beethoven, elle doit beethoveniser Beethoven. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de coïncidence qui ne se vérifie que dans l'après-coup, qui se vérifie que dans le trop tard, et je dirais même esthétiquement. Alors, au point de vue méthodologiquement, c'est très troublant, parce qu'on peut en effet, dans une définition qui serait trop ouverte de l'invention-réinvention pour la compréhension, être dans quelque chose pour lequel il n'y a pas d'instance critique. C'est un souci aussi transversal de ce livre. Quelle pourrait être l'instance critique? Et ce qui est vraiment important dans l'utilisation des mathèmes lacaniens et de l'architectonique ancienne, parce que je persiste qu'il y a plus qu'une homologie, c'est qu'il y a chaque fois une possibilité non seulement de réinvention et d'idéation, vous avez eu raison de pointer cela, mais aussi une instance critique. C'est avec l'architectonique qu'on se sort des antinomies. Le premier livre important de Kant, c'est 1755, l'Histoire du ciel. Il se livre à des dissertations sur la cosmologie newtonienne et déduit qu'il doit y avoir des forces de répulsion en même temps que des forces d'attraction, sinon le monde imploserait, etc. etc. Et c'est exactement ce genre de conduite, je dis, d'idéation, c'est-à-dire raisonner sur les concepts, qu'il critique férocement dans son livre tant plus tard, La critique de la raison pure, parce que là, on ne sait pas où on est, on ne sait pas si on tombe juste, car on peut tomber juste en inventant sauvagement. On peut tomber juste, hein. Il ne faut pas croire que c'est de l'erreur, mais on ne sait pas si on tombe juste. Et ça, c'est extrêmement important.
D'accord, hein, c'est pas... ça fait partie. Mais je vais quand même dire deux méchancetés sur l'idéation. Je crois qu'il faut un peu...
Mais bien sûr, on est venu de si loin pour ça aussi.
Sur l'invention. Oui. D'abord, vous prenez l'exemple des mathématiciens qui inventent, mais ou même de Newton. Ce sont des gens qui connaissent admirablement la structure. Ça, c'est parce que j'ai plus ou moins vogué à l'époque ce structuraliste, qui connaissent admirablement la structure préalable des concepts. Et ce qu'ils font, c'est pas un jaillissement comme ça, c'est une modification décisive dans la structuration qui peut venir de leur invention ou de leur liberté. Mais c'est pas une liberté pure, c'est pas une raison pure, ça.
Il n'y a pas de liberté pure. Je sais pas où vous le trouvez dans ce livre. Prenons Newton, parce que Newton, j'ai fait ma seconde thèse dessus, donc je suis vraiment à l'aise. Ce n'est pas simplement une modification de détail dans une structure, et ce n'est pas une pensée structuraliste. Le clean break, la cassure avec Newton, c'est qu'il abandonne l'explication métaphysique. Donc on n'est plus dans une connaissance. Je sais bien ce que c'est un corps, je sais bien ce que c'est Dieu, je sais bien ce que c'est, et je tire des conséquences, et on a erré comme ça. À un moment, il dit, et c'est repris, je crois que tu le reprends.
C'est repris par Lacan, très, très explicitement.
Voilà, je ne feins pas, hein, potesser son feigno.
Non, c'est ça, bon,
voilà.
C'est bien...
Oh, non, c'est très très important, parce qu'en même temps, les mathématiques qu'il utilise sont des mathématiques qui ont posé des problèmes à ceux qui les portaient. C'est-à-dire que ce n'est pas une invention pure, une espèce de pure jouissance de dire n'importe quoi et ça tombe juste miraculeusement. Nous n'entrons jamais dans ce délire, Christian et moi.
Mais
Leibniz, et je pense que je le cite, Leibniz avait très peur de ce qu'il appelait des fictions nécessaires. Ils avaient une grande conscience. Newton était quelqu'un d'extrêmement mystique et de religieux. Il a laissé des pages sur la théologie. C'est demander si c'était l'électricité qu'on commençait, ou le magnétisme, parce qu'on ne savait pas provoquer le magnétisme. Il se demandait si l'attraction universelle, c'était ça. À un moment, il s'est dit, je ne sais pas, et en plus, ça ne me sert à rien de savoir. Donc, ce n'était pas qu'il possédait une structure thématiquement riche, et il possédait un mode de pensée qu'ils ont modifié. Alors là, on n'est pas dans de l'invention pure et libertaire, comme vous semblez le dire.
Mais
on ne se fait jamais l'avocat de cela. Hein.
Il y a tout de même les équations galiléennes qui sont là quand même.
Mais oui,
bon,
tout à fait.
Mais il y a un processus. C'est d'un demi de GT2. Oui. C'est devenu F égale KM même prime sur D2.
Absolument.
Excusez-moi de ces. Autrement dit, il y a quand même un travail fondamental, quitte à ce qu'il y ait l'élimination d'un certain nombre de domaines comme inadéquats. C'est ce que vous dites très justement.
Mais oui, parce que ce travail, et vous avez raison, et ça vient de même plus loin, ça vient de Alassane, enfin les Arabes, etc. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que, et d'ailleurs Euler a dû formaliser la mathématique de Newton qui était un peu bancale, ce que j'essaie de vous dire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'insistance sur la phénoménologie de l'écriture, dont je dis qu'elle manque. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que cette idéation est extrêmement importante, mais elle n'est pas une pure fantaisie de l'imagination. Nous ne le disons jamais. Et je ne pense pas que ça doit être le cas pour la clinique. Donc là, il faut un petit peu rétrécir la chose. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que, dans l'exemple des mathématiques qui ne épuisent pas tout le champ du pensable, comprendre, c'est réinventer, refaire la démonstration et tomber juste. On ne comprend des mathématiques, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui les apprennent par cœur sans rien comprendre, et qui dupent leur professeur, il faut refaire comme si on en était le premier auteur. Aujourd'hui, on ne fait plus des mathématiques comme ça.
Mais vous utilisez le concept de création.
Bien sûr.
Et même d'auto-création.
Mais dans le cas, évidemment, dans le cas de la liberté.
Ben oui, et ça, bon, c'est pas évident. Je voudrais faire interdire ma seconde objection. Je vais vous faire une confidence. Moi, l'idée que j'ai une structure parfaitement déterminée, ça ne me dérange pas du tout, personnellement. Et je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas compatibilité entre une structure relativement rigide, qui est la structure d'un psychisme, et la liberté et une possibilité d'invention? Moi, je ne vois pas tellement de contradictions là-dedans. Il n'y a pas besoin de l'ancrer métaphysiquement dans une liberté ou une raison pure. On peut très bien. D'ailleurs, c'est ce que fait Lacan avec sa théorie de la sublimation.
Oui, mais.
Quand il décrit la création artistique, il parle simplement, dans la logique du fantasme, d'un cernage de la chose. C'est-à-dire, ça présuppose les mêmes éléments qui interviennent dans la structure de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, c'est ce que je me permets de faire remarquer.
Oui, mais c'est ça. Mais tu emploies le mot structure dans un sens qui n'est pas du tout celui de Lacan. Hein. C'est pas la structure même qui est, pour Lacan, la structure, c'est la structure de Monsieur Tout-le-Monde qui peut cerner la chose, etc. Alors, pour...
Ma structure à la noix, dont il parle dans ses tout derniers séminaires. Il n'a jamais abandonné...
Du terme général de structure.
De structure.
Oui, mais le terme général...
Hein. Avec le structure. Ah, ben, le terme général,
non, mais quand tu parles,
il l'identifie souvent au discours, par exemple.
C'est ça, mais quand tu dis « moi j'ai une structure précise », ça n'est pas du tout dans le sens lacanien. Enfin, je tiens à souligner, mais je...
Une structure X, oui, bon, mais ce n'est pas...
Parce que maintenant, on a cette importation de termes structure qui a l'air lacanien pour parler d'une structure spécifique.
Nous avons tous affaire à une structure, et est-ce un scandale de dire que cette structure que nous avons, qui peut bouger,
c'est un scandale de confondre ce terme de structure avec le terme lacanien de structure.
Mais pourquoi, quand je dis nous avons, il y a une structure du sujet, c'est un énoncé qui n'est pas lacanien.
Ah, ça dépend ce qu'on entend.
Il y a une structure du sujet.
Si on dit Monsieur X ou Madame Y a une structure Y ou Z, ça c'est absolument anti-lacanien.
Chaque individu a un inconscient et il peut être déterminé de façon structurelle.
Ah ben ça justement, c'est précisément cette façon de penser éventuellement que je remettrai en cause à partir du livre, c'est-à-dire à partir de l'inconscient qui est, naturellement, Kant n'a pas découvert l'inconscient, ça c'est, on est bien d'accord. Mais il me semble que la position du livre arrive à dire et à préciser quelque chose de l'inconscient qui n'est pas commun et qui est fondamentalement important. Premièrement, justement, que l'inconscient n'est pas du côté d'un réalisme, et ça, Freud le dit lui-même, quand il dit l'inconscient ne pense pas, ne juge pas, ne calcule aucunement pas, il se contente de transformer, on ne peut absolument pas le voir comme quelque chose de réaliste. Et quand nous précisons à travers le cinquième chapitre comment, pour comprendre l'inconscient, il faut aussi comprendre le non-sens et notamment le non-être et le non...
Oui, c'est cette formule, je l'ai remarqué, mais tu as très justement insisté sur sa portée.
Et ça a une importance fondamentale, parce que à partir de là, tu parlais du factum, là, de la loi morale et de l'universalité. Hein, mais je pense que, de nouveau, il faut comprendre ce factum et cette universalité dans la perspective d'un jugement synthétique a priori. C'est dit très explicitement dans Kant, ce qui n'est pas repris par les psychanalystes lacaniens qui ne retiennent que l'universalité. Or, ce jugement synthétique a priori est fondamental pour Kant, c'est-à-dire qu'il y a un faire inhérent, et ce faire inhérent, ce jugement synthétique a priori intérieur au factum, il ne doit pas être compris au niveau d'un individu comme on le comprend toujours, mais au niveau de l'inconscient. Autrement dit, l'inconscient n'est pas simplement une donnée que nous aurions et avec laquelle on devrait se débrouiller, comme des cartes que nous aurions avant la partie, une partie à jouer. L'inconscient contient aussi un nœud de fer et de fer
moral, je ne sais pas.
Mais non, en tout cas, moral, entre guillemets.
Nécessaire, certainement, que tu déplaces la loi morale dont je ne veux pas, moi je le dis franchement.
Mais hein. Non, le moral, je mets entre guillemets, parce qu'il faut le lire naturellement autrement.
Bon, hein. Mais d'accord. Si tu la déplaces au niveau de l'inconscient et que tu parles de quelque chose de nécessaire, à ce moment-là, le problème, c'est est-ce qu'on a raison de conserver une part de liberté là-dedans ? Je ne suis pas certain que tu sois libre.
Et la liberté, elle est inhérente à l'inconscient. Ce n'est naturellement pas la liberté de l'individu par rapport à ses pulsions où il peut faire ce qu'il veut.
Elle est inhérente à l'inconscient.
C'est-à-dire que l'inconscient, on peut le faire travailler, le laisser travailler de telle sorte qu'il produise quelque chose
c'est
de nouveau.
C'est la liberté, ça. Ah, de nouveau, oui.
Pas simplement de la répétition.
Peut-être, il faut voir, mais tu dis très bien que la répétition, c'est jamais la répétition du même. C'est excellent, ce passage. Non, mais je pense quand même que... en tout cas, les représentations communes de la notion de liberté qui se trouvent chez Kant, je ne vois pas très bien ce qu'on peut en faire dans le discours psychanalytique. Ah,
oui, alors, on va...
Je viens de faire ta provocation.
Non, mais elle a bien réussi. Vous voyez que l'analyse réussit parfois. On va un petit peu se libérer les mains. Moi, je ne suis pas le concessionnaire de la maison Kant qui existe depuis 1781 ou plutôt 1724, sa naissance. Et encore une fois, mon intérêt pour l'architectonique a été le fil rouge méthodologique qui m'a permis d'ouvrir toutes les portes. J'ai fait deux thèses là-dessus. Et ma thèse sur Kant et les mathématiques est devenue ma main classique dans mon petit domaine à moi. Et ça veut dire que quelque part, à partir du moment où j'éprouve la cohérence de cela, plutôt que de me laisser empapiner par ce que je crois savoir de la liberté, des versions communes de la liberté, du surmoi, des espèces de Kant prussien de l'école, hein, que l'école de Marbourg a aussi un petit peu accrédité, et Heidegger se bat contre les moulins à vent là-dessus. On va laisser un peu tout cela de côté. Je vous dirais quand même qu'il y a des limites, et je crois que c'est assez clair d'ailleurs, il y a des limites à la pensée kantienne. Je ne suis pas le représentant d'une nouvelle religion ou d'une religion déjà ancienne. Et là, quelque part, sur les questions de la liberté, il faut que je manie un petit peu du balai. D'abord, cette liberté porte mal son nom, chez Kant. À partir du moment où il veut fonder la métaphysique en science, ce qui est déjà... Enfin, on a compris que ça ne va pas réussir, et ça n'a pas réussi. C'est aussi voué à l'échec...
C'est l'idée de Leibniz.
Oui, tout à fait. Mais là, bon, Kant, il a été avec une rigueur extraordinaire et d'autres moyens. Il n'a pas pu non plus fonder la science en science, selon la conception qu'il avait métaphysique des termes. Il n'a jamais réussi, je m'en explique, à mettre un système de force qui serait des concepts métaphysiques et plus qu'à déployer pour retrouver la philosophie de la nature newtonienne. Donc là, vraiment, il y a déjà des limites épistémologiques. La seconde chose, c'est que cette idée que l'agir moral est aveugle à celui qui pose l'action, pour laquelle il doit maximaliser la maxime et passer par la machine de l'entendement, enfin, ça paraît tout à fait aberrant pour un étudiant de première année, c'est-à-dire bien que là, quelque part, on a une sorte d'autisme méthodologique induit qui peut porter le nom de liberté au schtroumpf, je veux dire là où on ne sait plus où on est, et quand on voit l'antinomie du bonheur et de la vertu, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans la critique de la raison pratique, mais elle est toute négative, et tout ce qu'il y a de positif, Filonenko l'a bien montré, tout ce qu'il y a de positif dans ce qu'on voudrait retirer comme une conception positive de la liberté kantienne, malheureusement, elle s'effondre dès qu'il s'agit de passer aux politiques. Et ça, c'est la religion dans les...
Ça, c'est l'application, d'accord.
Oui, ou plus que l'application, parce que je dirais que quelque part, mon intérêt pour Lacan, mon intérêt pour beaucoup de choses, viennent de ce que je pressens, que la philosophie pratique de Kant et ce qu'il a à dire de la liberté m'impressionne, me donne à penser, mais je ne suis pas kantien sur ce point. Et Filonenko a bien montré que Kant est absolument incapable de fonder la triangulation, encore une fois, on a un triangle comme RSI, entre le sujet de l'État, le citoyen et la personnalité éthique. C'est un vrai problème. Et là, Hegel devient extrêmement important. On est dans un autre terrain, mais il ne faut pas maintenant parler de version commune de la liberté et après demander si la structure peut laisser la liberté. En revanche, attendez. En revanche, à partir du moment où il renouvelle la sauce dans la critique de la faculté de juger, il y a une lettre à Reinhold où il dit « Chaque fois que j'ai un doute, je vais consulter ma Fortzeichnung » parce qu'il ne faut pas le traduire par le tableau général des catalogues et des etc. comme Rivelet ou Filonenko le font, il faut aller à l'allemand. Sa Fortzeichnung, c'est-à-dire son patron, son modèle, son architectonique, tout d'un coup, lui vient l'idée que peut-être une faculté de juger est possible, elle aurait des principes a priori. Et là, quelque part, on a des énormes distorsions dans l'édifice kantien, parce qu'avec le sensus communis, avec l'hypotypose du bien dans le beau, on a énormément de choses qui viennent repeupler le désert qu'il avait pratiqué entre les fondements de la métaphysique des mœurs et la critique de la raison pratique, où on se demande au sortir de cela si c'est autre chose qu'une chimère. Il ne bloque rien, le Kant. Il ne faut pas lui faire ce reproche. Il y en a d'autres à faire et je vous ai bien de les faire. Il ne bloque rien parce qu'il faudrait postuler l'immortalité de l'âme, peut-être même Dieu, pour qu'un jour la volonté s'atteigne elle-même. Donc on n'est pas dans du surmoïque. On n'est pas dans l'obéissance à l'autorité qu'on trouvera dans la métaphysique des mœurs, ouvrage très tardif. On n'est pas dans tout ça. Si on reste, proche au texte, tu vas travailler la critique de la raison pratique, donc on aura certainement l'occasion d'en rediscuter. Il faut faire très 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 attention de ne pas se laisser à ce moment dominer par un inconscient philosophique qui, par le prisme des idéologies modernistes, antimodernistes, etc., actionnaires, progressistes, a mis en circulation un Kant des écoles qui n'a plus rien à voir avec le texte.
Mais là, pour préciser oui. Ce que vous venez de dire, les postulats, qu'est-ce que vous en faites?
Ce sont des postulats. Vous avez utilisé le bon mot. C'est-à-dire pour que le bazar tienne, il faut faire des postulats qui prolongent comme des asymptotes des choses qui, si elles n'existaient pas, dénonceraient la vacuité de toute entreprise. C'est pour ça que j'ai parlé d'un autisme méthodologique.
C'est bien ce que je vous soutiens. La oui. Vacuité de l'impératif et les postulats en question, c'est quand même Dieu, l'immortalité de l'âme, c'est des projections imaginaires.
Pour, oui, pour et je pense qu'il est très clair à ce sujet.
Oui, mais c'est des projections. C'est des projections. Pardon ?
Et la liberté, qui est
un peu. Et la liberté, absolument.
Mais c'est des projections.
La liberté nous ménale, parce qu'elle est censée quand même.
Mais c'est des projections imaginaires pour prolonger un processus de vacuité. Et oui. Pas simplement, c'est pas pour dire ben, vous allez avoir une petite récompense à la fin.
Mais voilà.
Non, non,
mais j'espère bien.
Non, mais il y en a qui lisent comme
mais,
ça.
Mais, hein, ça tient, dans les, mais quand même, ça ne tient pas debout, ces postulats. C'est ça mon problème.
Voilà. Parce que vous en avez besoin, peut-être. Et, non, excusez-moi d'être provoquant à mon tour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire cette vacuité. Je vois des gens qui sont dans ce réalisme que j'ai un petit peu brocardé. C'est vrai que ma colère est vraie, donc c'est vrai que je suis en colère, donc ma colère est vraie. Cette espèce de manière de dire je l'ai senti, je l'ai cagué, donc maintenant je vais faire chier le peuple avec. On a ça constamment. Les gens, alors je dirais, il faudrait mettre la population entière sous analyse, à supposer qu'elle réussisse.
La culture de masse, et ça,
mais je dénonce la culture de masse.
Tout le monde, elle est là. Enfin, des gens comme nous, on n'est pas à l'aise dans la culture de masse. Hein.
Mais moi, je l'espère bien, c'est pour ça que je vous parle.
Mais rassurez-vous.
Voilà.
On peut poser quelques questions.
Mais bien, alors, oui. s'il vous plaît.
J'ai pensé d'abord à cette, si j'ai bien compris. Cette idéation, cette invention, cette création conceptuelle perpétuelle, c'est ça que vous mettez sous le mot d'architectonique. En fait.
c'est la méthode. L'architectonique est une méthode. Permettez-moi d'être court en étant un peu plus détaillé. Si vous voulez sortir des antinomies, vous devez cesser de vous demander si le monde a un début ou une fin. Essayez de le rêver. Beaucoup se le demandaient à l'époque, y compris Kant. Voilà, il faut quand même le remettre dans son histoire. Il faut considérer les rapports entre les images. Pour cesser d'être voué à une vision du bonheur, il faut prendre ce recul. Les psychanalystes le font tout le temps. Ils n'écoutent pas simplement l'information, ils écoutent toute la musique, tout ce qui est dit, tout ce qui n'est pas dit, les rythmes, les inspirations, etc. Voilà, ça c'est une méthode critique. Donc c'est une méthode de lucidité. À côté de cela, et ça je l'ai vu avec un mathématicien qui s'appelle René Guittard, je vais faire une petite vignette, qui n'avait pas lu Kant, qui était venu nous parler des diagrammes, j'ai assisté à cela, et il commence un tableau à quatre parties. C'est un peu les tableaux comme tu y as dans ton chapitre 5. Et à un moment, il se perd. Hein, donc c'est un peu les papous à barbe, à papou, etc. Et puis après, à un moment, il ne sait plus où il en est. Et je complète la série pour lui, parce que j'ai une longue habitude de ces diagrammes. Philippe Descola en parle, Deleuze en parle, Châtelet en parle. Ils n'en parlent pas à partir de Kant. Il y a une méthode de pensée, une méthodologie de la pensée, qui possède par complétude. C'est-à-dire que vous allez retrouver l'élément manquant parce que vous avez les trois autres. Et ça, cette méthode-là, est idéative. Elle génère des idées. J'ai mentionné cela, et là, la lettre de Reinhold à la fin de 89, la lettre de Kant à Reinhold, je reste un petit peu près de la vignette, Kant pensait avoir fini avec ces deux critiques, la raison pratique et la raison pure. Et puis tout d'un coup, il explique à son copain Reinhold, et puis j'ai aperçu la possibilité d'identifier des principes a priori dans la faculté de juger, il était persuadé du contraire jusque-là, c'est-à-dire c'est son système, c'est en faisant des petits tableaux, dans le train j'en ai fait un, en réfléchissant, j'ai la table des catégories, etc. Et puis tout d'un coup, je pense et je me dis, alors ça c'est facile, qu'est-ce qu'il y a là? Et puis je réfléchis et l'idée me vient, c'est une méthode qui fonctionne, qui est un constructivisme. Kant l'utilise constamment. À partir de cela, il utilise sa table des catégories comme une matrice et il arrive à des résultats extraordinaires pour quelqu'un qui parle d'art et du vivant et qui franchement n'a jamais quitté Königsberg. C'est pas la grande musique, il la connaît pas, il n'a pas été à Saint-Pierre de Rome. Il connaît tout ça par des livres. C'est-à-dire qu'il a une connaissance quasi visionnaire de choses qu'il n'a pas vues parce qu'il a cette possibilité idéative qui le rend tout à fait pertinent pour l'histoire de l'art et l'art contemporain, on l'utilise beaucoup. Alors ça, c'est ça l'architectonique.
C'est pas de la création conceptuelle pure.
Non, parce que la création conceptuelle pure, vous direz Kant, c'est de l'imagination. C'est l'imagination productrice. Le problème, c'est comment la faire tenir pour savoir si on délire ou si on est tombé juste. Comme je disais, les gens qui inventent tout et n'importe quoi, parfois tombent juste. Il ne faut pas imaginer que, voilà, que on dit que des bêtises. Parfois, paf, on tombe pile poil. Le problème, c'est
que... Il faut un critère pour décider.
Voilà, il faut une instance critique. Et c'est là où, quelque part, l'instance critique dans la philosophie pratique de la liberté, c'est je sens que je devrais faire le bien ou je sens que je pourrais mentir, ça serait sympa. Et Kant propose une méthode extraordinairement artificielle, et il faut réfléchir sur ce qu'elle veut dire, au-delà des premières appréhensions et des craintes du surmoi. Si tout le monde ment tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Je dois vous dire qu'en tant qu'étudiant, quand j'ai lu ça, que j'avais 20 ans, j'ai rigolé. Je me dis, quel con.
C'est assez juste, votre réaction. C'est
mais vrai, oui. C'est absurde. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que j'avais... Et après, en fréquentant d'ailleurs les psychanalystes, j'ai vu les dégâts inattendus des filiations fraudées, des histoires d'inceste, le secret qui dévore. Et puis je me suis dit... En relisant les textes, parce que j'ai beaucoup travaillé Kant, je me suis dit, ok, ça a l'air d'être un neuneu absolu, mais peut-être que je l'ai mal lu, j'ai mal compris, peut-être non, que j'ai...
Ça, c'est le critère moral, mais pour l'invention théorique en général...
Oui, mais alors quelle est votre question?
Il était beaucoup question d'idéation, d'invention,
oui,
l'accent
oui.
était mis sur la réinvention perpétuelle des concepts, sur la création conceptuelle oui. perpétuelle. Ma question partait de là.
Donc, d'accord.
Je me suis demandé si c'était ça l'architectonique. Vous m'avez répondu oui, pas tout à fait.
C'est une partie, et puis j'étais
c'est
précis.
C'est une partie, et après on est passé
alors,
à
pour
la
revenir, alors, pour revenir à toutes les formes. Kant décrit le processus par lequel un mathématicien devient géomètre. C'est Thalès, c'est dans la seconde préface de la critique de la raison pure. C'est la révolution copernicienne. Donc on n'est pas en train de lire le réel, il faut faire autre chose. Nous connaissons des choses a priori, le mot-clé c'est a priori, que ce que nous imitons nous-mêmes. Donc il faut construire, fabriquer sa connaissance. Dans le domaine de la liberté, on ne devient autonome et libre que si on s'auto-recrée, sinon on est le jouet de passions et de pulsions.
Il y a un élément hétérogène à cette création. Vous dites l'a priori, c'est pour ça que j'étais très
étonné. C'est un concept métaphysique qui ne va quand même pas de soi, le concept d'auto-création. Vous vous rendez compte, enfin, vous prétendez...
Kant prétend, je suis très proche des textes, hein. D'accord. C'est une causalité libre qui prend en elle-même son commencement et qui du coup a en effet une origine suprasensible. C'est-à-dire, ou bien vous êtes une machine...
Non, mais là, on passe constamment du théorique... Attends, parce que là, on passe du théorique au pratique, on ne s'y retrouve pas. Moi, je voudrais insister, pour l'instant, juste sur l'aspect théorique de création conceptuelle.
D'accord.
C'est même... Quand tu dis jugement synthétique a priori, tu le rabats sur ce faire, ce que tu appelles ce faire pratique. Mm-hmm. Mais dans jugement synthétique a priori, il faut entendre quelque chose qui est un jugement qui porte sur quelque chose de nécessaire et d'universel. Il n'y a pas que l'a priori, il y a aussi le synthétique. Et le synthétique implique une donnée externe, qui est la donnée intuitive. Donc il n'y a pas que le faire, il y a le faire... En collaboration avec un élément d'extériorité pure.
Bon, on va pouvoir aller vite parce que vous êtes très précis.
Voilà.
Et je vous remercie. Bon. Dans A717, B743, à la fin, Kant décrit un philosophe qui est un géomètre aux prises avec le concept d'un triangle, trois lignes. Le philosophe regarde ça comme un lapin regarde un camion passer. Bon, c'est pas dans Kant, mais vous avez compris.
Le mathématicien construit le concept dans l'intuition. Il y a l'élément de l'intuition.
Oui, dans l'intuition. Pure. C'est-à-dire qu'en fait, il a son triangle de base, et pour prouver que les trois angles sont de droit, il va utiliser des équivalences, il va faire passer tel angle, etc. Il rajoute, et ça c'est de la géométrie euclidienne qui date de 2000 ans avant, hein, Kant. C'est-à-dire qu'il est l'héritier d'une tradition qui s'est perdue, que quand vous avez 10 ans à l'école, on vous apprend encore. On met en évidence, on trace des lignes, des parallèles, etc. C'est ça à construire. Aussitôt, le géomètre se met au travail en A717 et il construit des lignes. C'est ça la synthèse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en regardant un triangle, en déduire par la vue les concepts. Vous ne pouvez pas non plus en sortir du concept logique, trois lignes, etc. Vous devez construire des lignes, etc., faire toute une démonstration graphique.
Parce qu'il y a la résistance de la donnée sensible qui provient de l'intuition.
Mais tout se fait dans l'intuition. Quand vous faites des traits, ils sont visibles. Pour Kant, tout se fait dans l'intuition. C'est pour ça qu'il n'entend rien à l'algèbre.
Ça, c'est dans la mathématique.
Oui, absolument. Mais vous avez posé la question, c'est pour ça que vous avez
été technique. C'est parce qu'il parle de construction, de concept.
Oui, alors le concept, mais vous connaissez bien vos textes, la différence entre la philosophie connaissance par concept, c'est l'information. Un triangle, c'est trois lignes. Qu'est-ce que j'en fais ? Rien. Une construction de concept, je commence à tracer des traits,
je
me pose un problème, je le résous. Voilà. Et là, j'ai construit mon savoir. Un savoir qui n'était pas dans la figure du triangle.
Dans le concept.
Qui n'était pas dans le concept analytique et qui n'était pas non plus dans la figure empiriquement vue avec vos yeux.
Parce qu'on se confronte à la résistance de l'intuition, qui est l'élément d'extériorité.
Mais il n'y a pas de résistance. Pourquoi vous parlez de la... ça vient de tous les côtés. Vous avez raison de mentionner cela. Ce triangle, il est n'importe comment. Il n'y a pas de résistance. Parce que je peux construire. Je ne sens pas une résistance. Si je ne sais pas que je dois construire en rajoutant ce qu'on appelle en grec des kataskios, c'est-à-dire toute une mécanée, la démonstration s'appelle une mécanique, toute cette cuisine-là, si je ne la fais pas, il ne se passe rien. Et il n'y a pas de résistance. Là, la résistance, ça serait ma fainéantise, si vous voulez, ou mon ignorance.
Si je résistance au sens où je ne peux pas tout faire non plus. Démontrer dans le concept de triangle.
Mais on ne demande pas tout à Simoul. On ne demande pas une connaissance absolue donnée par Dieu de la totalité des savoirs possibles.
Non, mais quand je démontre quelque chose du triangle, c'est parce que je découvre des propriétés objectives.
Absolument. Et bien souvent, ce qui me met sur la route de cela, ce sont des problèmes. La duplication du carré dans le Ménon de Platon.
Oui.
Ouais. Bon. Alors, ça, c'est un bon exemple. À partir de cela, le synthétique, alors la définition canonique chez Kant, c'est je mets dans le concept de départ, trois figures de triangle, un autre concept qui ne s'y trouvait pas, par exemple, voilà. Les trois angles qui forment deux droits, hein, pour prendre l'exemple qu'il cite lui-même, et là, c'est du jugement synthétique. Alors, pourquoi est-il a priori ?
Parce que c'est dans l'intuition pure, et non pas empirique.
Elle est pure parce que, quel que soit le triangle à partir duquel vous êtes parti, vous arrivez à un résultat qui est valable pour tous les triangles semblables, quel que soit le point de départ. Alors là, vous, du coup, vous êtes dans de l'intuition pure, c'est-à-dire... Vous êtes dans l'universel, vous êtes dans de la science. Alors ce jugement synthétique, qui est hautement visible ici, Kant dit que dans la donation, vous voyez instantanément que c'est un truc vert, machin, etc., que c'est un crayon, etc. Dans l'expérience telle qu'elle se fait, elle est déjà présente. Alors du coup, la structure de l'expérience physique est elle-même potentiellement mathématisable, mais ce n'est pas parce que vous percevez un pont que vous pouvez me tracer les vecteurs de la résistance des matériaux et des choses comme ça. Il faut un apprentissage.
Je peux faire juste une remarque,
là ? Oui, je vous en prie.
J'interromps.
Bien sûr.
J'en ai une aussi.
Le nœud, faut le faire.
Oui.
C'est ce que dit Lacan.
Bien sûr, il a raison.
Donc, ça veut
là,
dire...
Là, c'est une invention.
C'est une invention et... Contrairement au jugement synthétique a priori, c'est pas universel.
Oui.
C'est-à-dire que vous le faites, vous travaillez sur le nœud de telle ou telle structure, vous le faites, vous vérifiez ce qui résiste, vous voyez ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, parce qu'un nœud, il y a des explosions, et vous aboutissez à un certain abord clinique.
Oui.
C'est ce qui fait la différence, précisément, entre l'intuition lacanienne, s'il y en a une, c'est-à-dire le rapport de l'imaginaire, pour être encore plus précis, de l'imaginaire avec le réel, puisque c'est de l'imaginaire, il ne faut pas raconter l'histoire.
Oui, je suis bien, je vois très bien où vous allez. Allez-y.
Et puis, le rapport, c'est pour ça que j'ai du mal à voir l'homologie, j'ai encore du mal, je ne vois pas l'homologie. L'homologie si on prend la structure du nœud et le rapport au nœud et à la manipulation du nœud, il n'y a pas d'homologie entre le rapport d'un psychanalyste au nœud qu'il fabrique pour travailler avec son patient et le jugement synthétique a priori. Il n'y a pas d'homologie.
Mais c'est parce que tu ne considères dans ce cas-là que le jugement synthétique a priori du triangle ou de qui concerne la sensibilité, mais il y a un jugement synthétique a priori.
Moral aussi.
Moral.
Alors
justement, un mot simple.
Mais attendez, parce que je veux vraiment répondre, parce que votre question, elle est centrale et vous l'avez posée.
C'est une question idiote.
Mais attendez, la question idiote attendra après les questions intelligentes, si vous me permettez.
C'est une question idiote.
Oui, c'est l'universel. J'en ai rien à faire de votre universel. C'est quelque chose qui ne tient pas debout.
Bon.
Exemple. Si vraiment vous pensez qu'il ne faut jamais mentir, je suis sûr que dans votre vie, à ce moment-là, si vous obéissez à cette loi, vous aurez une déception considérable.
Mais moi j'ai des objections à ton objection. Hein, parce que
on va procéder par ordre. Je vous ai fait un diagramme, les enfants, s'il vous plaît.
Alors, Spinoza et Kant sont deux idiots de prétendre qu'il ne faut jamais mentir.
Je réponds en une minute à votre objection qui est fondamentale.
Elle est importante.
Voilà. S'il vous plaît.
Donc c'est pas pareil. Ce que je veux dire, c'est que votre exemple du triangle ne fonctionne pas avec la topologie des nœuds. Voilà ce que je pense.
C'est tout à fait juste.
Évidemment que c'est juste. Bear with me. Vous m'avez posé une question, j'ai répondu.
Qu'est-ce que vous appelez architectonique ?
Voilà. Alors maintenant, j'y réponds. Vous avez, chez Kant, trois grandes fonctions. La sensibilité, avec l'intuition, le donner des sensibles. Vous avez l'entendement, qui est la faculté de faire des concepts, qui est un petit peu le fonctionnement du computer, de l'ordinateur, si vous voulez. Et puis, vous avez la raison qui surveille tout ça. Quand vous êtes dans le mode d'emploi IKEA, vous avez besoin que ces deux-là. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de savoir s'il y a une raison. Vous pouvez même suspecter qu'il n'y en a pas. La raison et l'entendement, c'est la même chose. Kant fait surgir cette troisième faculté pour sortir des antinomies, et c'est le révélateur. S'il n'y avait pas eu le conflit de la raison avec elle-même, les antinomies, nous ne saurions jamais qu'il y a une raison. C'est une citation exacte. Les jugements synthétiques a priori ne peuvent se passer que dans le schématisme de l'entendement, entre la sensibilité et l'entendement. Ce qui fait que nous sommes dans le domaine du phénomène empirique avec la fondation de la science à travers ce constructivisme qui est celui dans l'intuition, vous vous en souvenez très bien, dans l'intuition, avec de l'intuition, sous une règle intellectuelle. Il distingue aussi le schématisme de l'entendement du schématisme de la raison. le schématisme de la raison, vous prenez une idée. Une idée ne peut pas être épuisée dans une image ou dans un concept. Donc, il faut arrêter d'en parler comme si c'était des objets. Pour pouvoir en faire quelque chose, vous devez le schématiser en concept. Donc, ça reste intellectuel. Et là, vous avez déjà l'architectonique, c'est-à-dire l'unité du tout et des parties. Le système de l'entendement est un système, la table des catégories par exemple, est un système architectonique. La totalité de l'édifice critique est un système architectonique. Maintenant parlons de la diagrammatique, parce que c'était votre question. C'est quoi? C'est une idéation, c'est une critique. Si vous utilisez une diagrammatique, vous utilisez, c'est là où on arrive chez Lacan, vous utilisez quelque chose qui n'est pas acceptable dans les deux premières critiques, mais qui le devient dans la troisième, c'est-à-dire vous figurez par un diagramme constructif, comme la table des catégories, la table du rien, ou les quatre discours, etc. C'est là où on arrive chez Lacan. Vous figurez, mais sans jamais pouvoir prétendre que vous avez obtenu par là une connaissance définitive. Vous avez représenté l'idée de la liberté, ou représenté l'idée du tout de la réalité, ou représenté je sais quoi. Mais cette structuration qui est visible à chaque page de la critique de la raison pure, et qui n'est jamais vraiment manifeste, on peut la traduire en diagramme. Et Kant utilise beaucoup de métaphores spatiales. C'est ce qui m'a mis un peu sur la voie, ayant un background mathématique. J'ai fait la liste, j'ai relevé patiemment, dans toute l'œuvre critique, toutes les manières de penser géométriques. Alors là, maintenant, je peux vous dire, l'architectonique, elle est invisiblement omniprésente, on la sent dans la systématicité insolite de l'œuvre critique. Si vous voulez maintenant commencer à réfléchir dessus, vous devez en sortir les diagrammes et les faire bouger, ce que tu as fait avec Lacan. Et ça veut dire que vous êtes non plus dans une intellectualisation d'idées, vous commencez à expliquer les choses, mais vous êtes dans une figuration sensible qui est toujours symbolique, dixit Kant, c'est le langage de Kant. C'est-à-dire le diagramme que je peux faire de la table des catégories, ou dans mon second livre, Système et représentation, où je donne quelques dessins, est toujours une approximation qui n'est aucunement exclusive de tout autre. Donc, quand vous dites « le nœud, il faut le tracer », Ça sonne comme du Kant. Pour penser une ligne, il faut la tracer. Citation exacte, c'est en B125, quelque part dans la critique de la raison pure. C'est-à-dire que pour Kant, il faut le faire. Elle n'existe pas. Le triangle n'existe pas si vous ne le tracez pas. Et il existera toujours empiriquement.
C'est-à-dire. Le
jugement synthétique, il surgit à la faveur d'une construction que vous devez faire. Vous ne faites pas de géométrie. La géométrie n'existe pas. Donc, on a connu des périodes dans l'humanité.
Ce que je veux dire, c'est que. Du point de vue lacanien, je vais être bêtement lacanien.
Oui.
Il n'y a pas de jugement synthétique a priori parce qu'on part d'une structure singulière et que donc on n'a pas la possibilité, même si on a le réel, le symbolique et l'imaginaire comme catégorie universelle, pour le dire de dimension universelle, le nœud est toujours singulier. Il est toujours singulier.
Mais il est toujours singulier parce qu'il est toujours.
Et donc il n'est pas.
C'est toujours une figuration sensible.
Non, c'est pas seulement une figuration sensible, c'est que ça concerne un sujet singulier.
Singulier.
Ça ne concerne pas l'universel.
L'analyste ou l'analysant?
Les deux. C'est-à-dire, c'est le travail de l'analyste sur le sujet qui est une singularité. Et donc, ça veut dire, épistémologiquement, qu'il y a une différence entre le discours de la science et le discours de l'analyste dans ce point précis.
Mais évidemment, nous n'avons jamais dit autre chose.
Mais
là, moi, je ne serais pas d'accord avec ce que tu viens de dire sur le jugement synthétique a priori que tu mets...
Ici.
Oui. Pour Kant, il est aussi du côté de la raison. Il le dit très explicitement.
Mais oui.
Oui, mais attends.
OK, vas-y.
D'accord. Et ça n'est pas sans importance parce que l'affaire du nœud que tu convoques suppose précisément non pas quelque chose de géométrique ou simplement de la science, mais un engagement éthique.
Exactement.
Comme tu l'as déjà dit tout à l'heure.
Pas d'universel du même coup.
Alors,
si c'est un engagement du sujet singulier...
Si tu permets, à partir du moment où le psychanalyste est parti sur certaines choses, il a universellement, et donc tout le monde va tomber d'accord avec lui sur le fait que tel nœud a telle
signification.
Telle, non, pas telle signification. Telles choses qui sont possibles ou impossibles. Enfin, il y a telle chose absolument impossible.
Non, c'est
la raison. Ça, c'est absolument certain, indépendamment de la clinique. Hein, donc, c'est a priori.
Est-ce que vous êtes satisfait?
C'est pas de l'éthique, ça, le mensonge.
Est-ce que je peux dire quelque chose aussi à propos des jugements synthétiques, toujours? Je me focalise là-dessus. À propos des jugements synthétiques a priori, du côté de l'universel et du nécessaire.
Oui.
Ça, c'est ce que Lacan caractérise très bien dans l'insu comme le fantasme de la science. Mm-hmm. La science est un fantasme, et un fantasme imaginaire. C'est-à-dire on fantasme l'idée qu'il y a de la nécessité et de l'universel. C'est un fantasme.
Oui.
Donc l'idée, c'est à mon sens, il faut reprendre les choses par rapport au nœud réel, justement, mm-hmm. qui lui nous remet face à ce, et ça, c'est dans la logique même de ce que tu dis, c'est-à-dire il nous remet devant l'expérience d'une singularité, oui. où la question de la singularité et de l'engagement éthique est premier par rapport à la question de la nécessité de l'universel, qui, elle, est une question purement fantasmatique et qu'on retrouve précisément dans le fixisme ordinaire de la psychiatrie et de tout. On est dans cette idée qu'il faudrait faire de la science. Et Freud y était aussi.
Bien sûr, et Searle aussi.
Mais Lacan n'y est pas. Lacan ne dit pas
l'universel ça. N'est pas fondé en soi chez Lacan. Il a besoin d'une exception.
Exactement, exactement.
Mais c'est
très important, ça, quand
oui,
même,
oui,
de dire
oui,
ça.
Oui, c'est tout à fait.
Parce que ça déplace, ça déplace.
Oui. Je vais reprendre.
Pas le droit. C'est pas ça universel.
La question, hein. Kant n'édicte pas la loi « tu ne mentiras pas ».
Jamais menti.
Non, tu ne lis pas convenablement Kant.
Ah oui.
Tous les exemples de Kant, Kant prend plusieurs exemples et il le spécifie bien qu'il n'y a aucun exemple qui vaut, sinon, pour faire travailler la raison, mais c'est dit explicitement, hein.
Oui.
Donne des exemples, plusieurs fois. La dénonciation, est-ce qu'il
oui, et qu'est-ce qu'il dit
la vérité,
et la question qu'il pose, est-ce que ce serait un devoir de mentir? C'est la question qu'il pose. Est-ce que je peux prendre comme loi morale de mentir dans ce cas-là? Et il en conclut, ça n'est inuniversalisable, donc ce n'est pas un devoir
mais
de mentir.
Mais ce n'est pas un argument recevable. La question, c'est précisément l'universel.
Si tu regardes d'ailleurs la catégorie de l'universalité chez Kant, elle correspond à la catégorie de la singularité. Allez voir dans les textes.
Ben non, parce que la singularité...
Ah oui, allez voir dans les textes.
Est-ce que la singularité d'un sujet ou d'une situation peut valoir contre l'universel? Voilà le problème. Et je pense que je peux le poser.
Mais la question...
C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire avec ce que tu dis.
Dans
la conclusion du chapitre 5, et autour de ce que tu évoques sur la question du flottement de l'attention, que tu relèves à propos de Freud, et moi j'adhère à fond là-dedans, tu évoques la possibilité précisément, et c'est pour ça que je suis étonné de ta réaction, je pensais que tu allais me dire oui, c'est comme ça, tu évoques la possibilité précisément d'une lecture singulière de la
Absolument.
Structure, d'une lecture singulière de la structure. Et moi, c'est ça qui m'avait plu. C'est-à-dire, je me suis dit, ben voilà, quelqu'un qui se déplace par rapport... au positivisme freudien, disons à une certaine forme de scientisme freudien, et qui pose le problème de la structure par rapport à cette question de la singularité.
Mais cette je soutiens bien ça, et donc je suis bien d'accord avec ça.
Et donc c'est juste pour aller dans ton sens que je dis
oui,
ça.
Oui, j'ai bien
parce
compris.
Parce que je pense que ta critique du fixisme, c'est précisément une critique de la nécessité et de l'universalité, et une façon de dire à tous les cliniciens que s'ils veulent tenir compte du patient auquel ils ont affaire, eh ben, ils doivent tenir compte de cette expérience singulière qu'est l'écoute, leur propre écoute, et celle du patient.
Mais oui, d'accord.
Tu es d'accord avec ça?
Absolument. Mais voilà,
et c'est ça qui est nouveau.
Je voudrais rajouter quelque chose, et tu seras d'accord avec moi, je pense, c'est que cette singularité ne consiste pas à dire, bon, écoute, de toute façon, c'est au cas par cas, et puis on verra bien. Ce n'est absolument pas ça. C'est une singularité absolument... je dirais rationnel, mais enfin bon...
Mais c'est pour ça qu'il y a... là où je ne te rejoins pas totalement, c'est que je pense que le déplacement qu'opère Lacan par rapport au concept kantien est réel. Il y a un vrai déplacement. Et que, c'est ce que disait à l'instant Hubert, il y a une inversion de la priorité entre l'universel et le singulier.
Et c'est à là que je reprends d'abord l'exemple qui est pris, que Hubert prenait, peu importe l'exemple d'ailleurs. Kant nous avertit très explicitement et à plusieurs reprises que les exemples ne servent qu'à une seule chose et qu'il ne faut surtout pas se baser sur les exemples, hein, juste à faire travailler le ciboulot.
Le cerveau. Hein.
Parce qu'il y a la représentation rationnelle de l'universel.
Alors, si tu lis convenablement Kant, tu verras que l'universalité, le terme que Kant emploie pour l'universalité, correspond à la singularité. Dans les catégories. Si tu veux encore avoir...
La précise, parce que bon...
j'ai pas le texte de...
Dans les catégories...
On aurait dû l'amener.
C'est par rapport au mensonge.
Je prends d'abord l'universalité. Et si on a quelques doutes à partir de là, à la fin de l'analytique de la raison pratique, il reprend cette question... des catégories, c'est peut-être dans le deuxième chapitre, hein, en tous les cas il reprend ces catégories et il spécifie bien chaque fois que c'est la troisième catégorie qui est la plus importante, à savoir la singularité, l'exception, etc.
C'est pas le cas dans la loi morale.
C'est dans la critique de la raison pratique.
La loi morale est un idéal aussi.
Je voudrais te reposer la question parce qu'on a déjà parlé. Pour sortir de cette opposition entre l'universel et le singulier.
Oui.
Alors je te repose la même question. C'est-à-dire indépendamment de cet aspect qui est très important, c'est la question de la dissymétrie. Alors, je ne sais pas si ta réponse a évolué depuis. C'est-à-dire que moi, je vois une opposition, alors pour le coup, irréductible, entre l'impératif catégorique, à savoir le fait de se poser la question si une maxime peut être universalisée. La maxime d'une action, c'est d'être universalisée. Mais non, c'est l'impératif catégorique. Et la dissymétrie qu'inscrit la structure du discours. Non pas les discours qui changent ou il peut y avoir de l'innovation ou tout ce que vous voudrez. La structure, le tétrapode, le quadripode lui-même, qui lui ne bouge pas. Place de l'agent, place de l'autre, place de la vérité, place de la production. Après, les termes changent, les discours changent, mais le quadripode ne change pas. Donc il me semble, et malement à quelqu'un qui insiste beaucoup là-dessus, il me semble que cette structure, inscrit une dissymétrie définitive, fondamentale, irréductible, entre les deux partenaires, disons, entre l'agent et l'autre, et que cette dissymétrie constitue une objection définitive à l'universalisabilité de la maxime.
C'est pour ça que je voudrais revenir sur la question de l'universalité. On retient ça comme critère et on oublie ce qui a été écrit en général. On oublie aussi que ça sert de critère pour décider si une maxime...
est morale ou non.
C'est ça.
Voilà.
Et dans tous les exemples, on peut le vérifier, dans tous les exemples, c'est un critère qui ne marche pas. Ce n'est chaque fois pas un impératif catégorique. Chaque fois.
Peut-être naturellement. Parce que ça se heurte à la structure.
Ça se heurte à un impossible.
Donc, il n'y a pas d'impératif catégorique.
Donc, il y a un impératif catégorique, idéalement, si tu veux, dans l'idéation.
C'est un devoir. Il ne faut pas quand même échapper à ça.
C'est aussi
un
idéal.
Il n'est jamais... Donc, par le fait que ça ne marche pas, alors le lecteur facile croit qu'il suffit de renverser la proposition. Je ne peux pas mentir dans ce cas-là. Donc on doit toujours dire la vérité. Mais... Kant ne dit jamais ça.
Mais alors, toujours dire la vérité. Ça, il le dit quand même. Hein.
Mais enfin, son raisonnement est chaque fois de prendre un exemple.
L'exemple du faux témoin. Non,
mais d'accord, mais ce n'est pas une réponse
et de mon, et de,
sur
et
le fond.
Non, c'est une réponse sur le fond, parce que c'est la façon dont procède Kant, c'est de dire, donc, ceci n'est pas une maxime qui peut être une loi morale. Et c'est chaque fois comme ça. C'est chaque fois comme ça.
Donc, il n'y a pas, donc, c'est aucune maxime qui est éligible.
Je peux me permettre d'offrir ma réponse. Méthodologiquement, ici, il faut faire très très attention. On parle de la loi morale comme si on l'avait sous la main, on parle de la liberté comme si on était libre, on ne l'a pas. Or, il faut voir un petit peu, c'est une critique de la raison pratique. Et il faut se reporter à l'antinomie du bonheur et de la vertu. Vertu invisible, bonheur évident, quel est le meilleur plan ? Le bonheur, c'est j'ai du pognon, je jouis, je fais des choses, je suis toutes mes inclinations, mes instincts, etc. Et là, il démonte le machin. En fait, nous ne sommes pas des êtres qui apparaissons sur un désert en train d'essayer de nous apercevoir faute de miroir. Enfin, on n'est pas dans un truc tout à fait délirant à la Dali. On est pris dans notre chair, on est pris dans nos émotions, on est pris dans tout cela. Ce qui est très très intéressant, c'est que le premier geste que Kant fait, c'est n'écoutez pas votre bon cœur, même si le sentiment moral s'y trouve, et s'y trouve d'une manière que vous ne pouvez pas le voir clairement.
C'est la position du sensible et de l'intelligible.
Exactement. Alors à partir de cela, comment on fait ? Si on sait que quelque part c'est là, mais c'est même pas un objet, c'est même pas individué, il y a une espèce de propension, de tentation, de tropisme vers un sentiment moral extrêmement diffus. Alors là arrive toute l'espèce de gros bazar très bizarre, qui est la maximalisation de la maxime de l'action. Si tu veux mentir, ben vas-y mon gars, mais tu ne sauras pas si mentir c'est bon ou c'est bien simplement en épuisant le concept analytiquement. Il va falloir que tu fasses, tu dis tiens si tout le monde mentait, là, 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 et tu verras, tu constateras, mais c'est chaque fois une expérience. Il faut tracer le nœud pour s'en saisir, il faut tracer la ligne pour la penser, et il faut faire ce chemin.
Oui.
Voilà. Et après, ces exemples sont chaque fois des exemples, je dirais provisoires, éphémères, et qui ne correspondent pas. Je continue. Là, le résultat espéré ne peut être dessiné qu'architectoniquement. L'impératif catégorique, dont la traduction c'est la maximalisation avec le principe de non-contradiction, qui est le vrai universel dans l'histoire, le principe de non-contradiction, fait que je me recentre, je me redresse autour de mon axe, au lieu de tourner constamment pris par « ah oui ceci, ah oui cela, telle émotion, telle impression, la rage, la colère, etc. » Donc c'est vraiment un vrai problème pour le psychanalyste, parce que cette philosophie de la liberté est une philosophie anti-émotionnelle. Et là, ça pose un problème.
Chose,
oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est là où je vous rejoins.
Ah, c'est la raison pure.
Attendez, c'est là où je vous rejoins en disant, n'hypostasions pas la liberté et la loi morale comme quelque chose qui serait accessible, et comme je suis un bon gars, je vais devenir moral, et c'est très facile. C'est très complexe. Je veux dire, la pureté et la vacuité, c'est le mot qui a été utilisé, se propose comme une espèce de programme exploratoire. C'est un peu comme les mathématiques de ce côté-là, en ce sens que vous ne pourrez pas, tant que vous n'avez pas fait votre triangle et vous vous posez des problèmes, arriver à une solution dont vous pouvez dire, après coup, qu'elle est a priori universelle.
Sauf que ce critère de l'universel lui-même est peut-être mauvais et se heurte à des données de structure.
Alors j'arrive à votre donnée de structure. Là, je vous concède le point, si vous voulez. Oui, non, mais je l'ai déjà dit.
C'est la seule concession que je souhaitais.
Mais oui, non, mais attendez. Je l'ai dit et répété, je ne suis pas l'arrière-petit-fils de Kant. Je ne viens pas pour défendre des positions. Moi, je pense, c'est tout. Voilà. Alors. Comme je l'ai dit, comme je vais devoir me répéter, je vais faire très court. Après avoir fait ces immenses monuments de psychotisme intellectuel, que sont la philosophie pratique, c'est un bon exemple, qui rate son passage à la citoyenneté, qui ne peut jamais se généraliser. Vous avez parlé de l'agent et de l'autre, c'est là où ça coince.
Complètement.
Voilà. Or, tous les exemples, je reviens à tous les exemples, sont tous intersubjectifs. Tout se passerait comme si j'étais seul sur une île déserte,
exactement.
Je serais instantanément moral. Évidemment, je ne le suis pas. Avec Kant, il ne dirait pas ça. Je pourrais aussi me suicider. Bon, on ne va pas aller trop loin. Là où tout d'un coup, il y a des choses qui repeuplent, j'ai dit avec ce mot-là, qui repeuplent le paysage et qui vous motivent à poser cette question tout à fait juste et fondamentale, c'est dans la troisième. C'est là où Cassira va chercher des lois, des formes symboliques, essayer de comprendre comment les cultures évoluent comme des organismes vivants. Et c'est là où, quelque part, je dirais qu'au fond, que fait l'analysant ? Un jugement réfléchissant. Un jugement réfléchissant, il a la musique de l'universel, mais il revient avec rien. Tout se passe comme s'il était dans l'émotion de la connaissance pure, comme s'il faisait des maths. Mais quand je trouve quelque chose de beau ou de sublime, je suis dans un sentiment où j'ai l'impression d'être dans la vérité, dans le suprasensible, mais je reviens avec rien. Il n'y a pas de science du beau. Il n'y a pas de science poétique du beau. Vous ne pouvez pas fabriquer du beau a priori. Et là, avec le sensus communis, qui est une concession énorme, énorme à tout ce qui a été dit dans la raison pratique, hein, alors on se dit, waouh, il relance les dés. Dans la religion, dans la limite de la simple raison, qui est un texte qu'on lit moins, il dit quelque chose de terrible. Il dit, vous prenez des hommes vertueux, selon le sens que vous critiquez l'universalité. Prenez des saints, vous les mettez ensemble, il n'en sortira que du mal. Yeah. Boum. Là, on se dit, il y a quelque chose qu'on a raté. Parce que normalement, vous devriez additionner les singularités. Et là, je reviens chez toi. Et pourquoi cette universalité n'est pas une vraie universalité? Parce que c'est une universalité autiste. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes dans une perspective qui va vers l'universalité, mais qui ne vous fait pas arriver aussitôt que vous êtes parti, n'est-ce pas? Et là, la structure des discours, tout ce que Lacan amène, etc., j'y insiste dans mes propres textes, qui sont évidemment très difficiles, je m'en excuse, je dis, le nil ulterius, là où Kant ne va pas, c'est une phénoménologie du langage, et c'est là où commence Lacan. C'est-à-dire qu'il y a, on a parlé pour le sujet parlant, etc., hein, tu as montré l'antinomie, là, il y a tout un travail à faire. L'avantage de l'architectonique, je finis avec ma phrase, l'avantage de l'architectonique, c'est que Kant ne peut pas être crédité d'avoir dit le dernier mot de ce que sa méthode pouvait permettre de penser. Sinon, on a affaire à un monument qu'on ne peut augmenter d'aucune supérette. Vous voyez ? Non, il donne à penser, il faut penser avec ça, le réinventer, voir si ça tombe. Et c'est comme ça qu'on trouve qu'il y a des limites.
Sans parler de l'objection, je vais mettre les pieds dans le plat.
Mais allez-y, le plat est assez grand.
De l'objection d'Anna Arendt sur la morale kantienne, et à propos de cette fameuse universalité, faut-il dénoncer à la police un homme poursuivi par la police alors qu'il est persécuté?
Bien sûr, et elle a raison.
Kant ne dit pas qu'il faut le dénoncer, hein.
Sur
un prétendu droit de mentir.
Mais oui, tout à fait. Mais là, ça suit.
Prétendu droit de mentir.
C'est juste dégueulasse. Donc on voit les limites de l'universalité.
Absurdité.
Ne nous payons pas de mots. Je l'ai dit, c'est autiste. Autiste, ça veut bien dire autonomie de l'autiste. Donc il n'y a pas de nazi. Anna Arendt, ayant dit cela, elle dans le The Life Eichmann, of Mind, à la Eichmann. Fin. Oui, ça je sais bien, 1961. Mais dans ses derniers textes de 75, où elle revient à Kant et elle restitue le sensus communis pour sortir de la République des experts en vraiment réacclimatant tout ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a des formes de sens, et c'est là où tout ce que Lacan et d'autres racontent redeviennent extrêmement importantes. Il y a des formes de sens qui se fondent et dont l'épreuve de pureté n'est pas la maximalisation de la maxime, mais le dialégestai socratique.
Non, mais ça veut dire... Ce que je veux dire, juste
mais
un
mot... Mais Lacan déteste
juste
le dialogue, il
juste
en dit
un mot,
beaucoup
juste
de mal
un
aussi.
Il faut faire ça, c'est la limite de Lacan,
là. Le paradoxe que met en lumière Anna Arendt repose très précisément sur le fait qu'il n'y a pas d'éthique qui ne soit singulière. Il n'y en a pas. Et donc,
mais toute éthique est politique, et elle a raison.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux défendre un persécuté et aller contre l'universalité, parce que c'est cette singularité-là qui est à défendre.
Oui,
mais ça, on est d'accord. Hein,
mais non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on est dans une autre...
Limites.
Il faut aussi lire Kant d'une façon à laisser la place pour cette singularité qui est présente. Qui est présente chez Kant.
Voilà. On pense à partir de Kant. On ne doit pas repenser Kant pour retomber sur exactement les mêmes pieds. J'espère que la réponse vous a satisfait.
Moi qui ai beaucoup de mal avec l'éthique de la psychanalyse, je n'ai pas encore compris exactement ce que c'était. Je dois dire que ce que vous dites est vraiment très intéressant et que vous défendez Kant avec beaucoup de brio et que vous
vous
faites tellement bouger que, bon, mais plus que vous ne l'avez fait dans votre bouquin quand même.
Parce que je suis en situation de dialogue où les questions que vous me posez me font penser. Tandis que là, je suis dans une espèce de programme absolu, si j'ose dire, où quelque part, il y a eu beaucoup d'écriture, il y a eu beaucoup de dialogues. C'est un livre... J'aurais pas écrit ma partie si Christian n'était pas rentré, ça fait très longtemps qu'on se connaît, dans un dialogue où quelque part, il m'oblige de me décantianiser. C'est un peu votre question. c'est-à-dire de sortir d'une espèce de machine qui se met en place, où les évidences...
Là, vous seriez en contradiction avec ce thème de l'idéation...
Exactement. Bon, voilà. Je me suis dit, je vais déjà très très loin.
C'est le thème central.
Oui, oui, tout à fait. Mais on peut déjà atteindre beaucoup de choses. Là, on en discutait en arrivant. Dans l'oralité, je suis un autre homme. Alors, c'est une autre question de la phénoménologie de l'écriture. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas Kant comme monument. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment penser Kant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. La phénoménologie contemporaine s'intéresse énormément à Kant. Les néo-réalistes, Miyasu, Ferrari, s'intéressent à Kant, etc., etc., pour en dire beaucoup de choses.
Tout le monde s'intéresse
oui.
à Kant.
Et moi, ce que je trouve, pour un petit peu être, puisque je sens qu'il y a un ton conclusif à tout ça, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que Kant pense. C'est ce qu'il donne à penser. Et il faut absolument le repenser à nouveau frais, voir si on tombe juste. J'ai trouvé des fautes, vous connaissez bien le père Marty avant qu'il meure, qui est le traducteur pour la Pléiade. Je trouvais des fautes graves dans la table des catégories, dans le commentaire. Oui, il y avait un mot pour un autre. Et c'est parce que l'architectonique me permettait de reconstituer tout cela. Je me suis dit, il y a un problème, j'étais pas dans l'allemand. Oui, il y avait une faute.
Vous avez une faute de typographie dans votre bouquin, je vous l'indique. Il y a « ens negativum » au lieu de « nihil negativum ».
Ah bon?
Ah, oui. Ah voilà. Ah, Christian.
C'est Christian. C'est quand vous parlez des quatre figures du rien, je ne sais plus à quel endroit.
Nous avons affaire à des lecteurs attentifs. Voilà, je vous remercie. À plus le compliment. Je repars heureux.
Non, mais ce sont des philosophes.
Je mets un peu de la légèreté parce que je m'enflamme aussi quand je parle.
Vous savez, vous avez ce thème de la création de concept. C'est le thème majeur de Deleuze. Quand
mais bien
ça,
sûr.
Ça ne vous a pas échappé.
Mais non.
Ou qu'est-ce que la philosophie, c'est... Enfin, une philosophie, c'est
créer des concepts. Oui.
Donc, est-ce que vous dites quelque chose de différent? Et si oui, pourquoi rattacher à Kant ce thème de la création conceptuelle, qui est un thème classique?
Parce que c'est très...
Deleuze n'a pas le monopole de la création du concept.
Sauf qu'il précisait que c'est ce que tous les philosophes ont fait. Donc on n'a pas besoin de parler de Kant.
Kant c'est ce qu'a fait Spinoza par rapport à Descartes.
Le but n'est pas de créer des concepts. Je pense que
pour le plaisir,
ce que tu as très bien dit, c'était que c'est une idéation. Et que je pense que c'est fondamental pour la psychanalyse. Contrairement, la clinique sans idéation, comme on l'entend le plus souvent, n'est pas une clinique. Oui. Et Lacan dit lui-même...
Ce que je trouve extraordinairement intéressant dans ton livre, c'est précisément ce point. C'est-à-dire partir de l'idée que il n'y a pas de psychanalyse vivante sans invention. Et ça, c'est vraiment...
Mais l'invention est-elle théorique ou l'invention est-elle...
Il n'y a pas de psychanalyse vivente sans invention. Ça, c'est la thèse.
Est-ce que c'est une invention Mais
là où, effectivement, on peut se poser la question, pourquoi considérer que le théoricien de l'invention, c'est Kant? Parce qu'effectivement, l'invention, on la trouve depuis le début de la philosophie.
Mais le théoricien qui dénonce le piège du réalisme, me semble-t-il, ça c'est fondamental actuellement dans la clinique.
Oui, je suis d'accord.
C'est dans le paysage des psychanalystes actuels.
Non, mais là-dessus, je suis d'accord.
Mais pourquoi pas Heidegger à ce moment-là?
Alors, attendez,
je dis ça parce qu'il a fait un texte sur Heidegger. Parce que ça ressemble un peu à Heidegger, votre histoire. Hein,
non.
Avec des concepts renouvelés chez Heidegger.
Je freine des quatre fers. On a eu une discussion à table sur Heidegger. On ne va pas la refaire. Je vais prendre, par contre, en ligne de compte, l'invention théorique et l'invention, je dirais, pragmatique ou herméneutique, et répondre à votre question. Oui, Deleuze, bien sûr. Ça ne m'a pas échappé. Bon, d'un autre côté, on ne va pas rameuter tous ceux qui en ont parlé de près ou de loin. Même le malin génie, c'est de l'ingénium aussi. Hein. Bon. Kant est le premier, et avec Platon, je dirais.
Platon, oui.
Avec Platon. Je fais des références à Platon. Et mon livre avant cela, c'était un bouquin sur Platon. C'est ce que je vous conseille. L'œil solaire, la...
Platine aussi.
Oui, mais alors...
Contemplation.
Oui, d'accord. Mais alors, il y a... Comment dire ça? Si vous chantez sous votre douche, c'est de l'invention. Si vous écrivez, vous êtes Bruckner, vous écrivez votre 9e symphonie, votre 7e, enfin bon, des chefs-d'œuvre absolus, c'est aussi de l'invention. Et c'est là où, quelque part, votre question de l'invention théorique est extrêmement importante. C'est-à-dire que Kant est le premier qui ait eu une exigence de rigueur qui l'a amené à faire des repentirs qui, au niveau des relations publiques, sont catastrophiques. Les deux versions de la critique de la raison pure, par exemple. L'invention, après avoir mangé son chapeau, d'une critique de la faculté de juger, alors qu'il pensait avoir épuisé le sujet au niveau du critique. C'est quelqu'un qui théorise sa manière de travailler, qui n'est pas simplement d'être inspiré et de mettre comme un essayiste à la Rousseau, qui écrit des très belles choses, attention, hein, ou Diderot, ce sont des textes absolument ravissants et délectables à lire, et il y a une invention de tous les instants. Soit dit en passant, Diderot est un piètre écrivain de théâtre, quand il devrait inventer dans le sens artistique, c'est très mauvais, l'office naturel, etc. Et quand il fait Jacques le facialiste, etc., c'est merveilleux. Alors il y a toute une philosophie de la créativité qui a été un objet...
Tout à fait, mais le social, c'est un peu plus...
Oui, d'accord. Mais enfin, bon, oui, d'accord. Mais enfin, c'est pour un peu comparer... Rousseau a énormément influencé Kant. Kant, c'est le premier qui s'oblige à une rigueur dont on pourrait penser qu'elle est braquante, surmoïque, paranoïaque, etc. etc. Et je sais pourquoi il n'y a personne ici. Quand on dit Kant, on fait peur.
Tout à fait.
On fait peur. C'est oh là, le peine à jouir, oh là là, en plus, maintenant j'ai mon âge. Alors, quand j'avais 34 ans, je parlais de Kant, c'était sexy. Alors maintenant, c'est un petit peu waouh. Il y a ça, ces effets-là. Or, ce que je ne suis pas du tout fétichiste. Je ne viens pas d'une famille de kantiens, il fallait prendre la tradition. Moi, je venais des États-Unis où on m'apprenait, j'étais mathématicien là, on m'apprenait que la philosophie, c'était l'hygiène, Wittgenstein, hein, l'hygiène du discours philosophique. Il faut tout nettoyer, puis vous verrez qu'il ne restera rien, et c'est ça ce que la philosophie doit faire. J'avais un peu cette attitude, un philo, c'est pipeau pour moi. Je suis tombé sur Kant, où quelque part, il résistait. Je sentais qu'il y avait des choses. J'ai mis beaucoup de temps à remettre la machine en route, à la rendre vivante, pour maintenant gloser. Maintenant, il y a dans cette architectonique dont je vous ai donné le diagramme architectonique, soit dit en passant, donc il faut bien savoir où on se trouve, il y a des effets de surprise, il y a des effets d'étonnement, qui ne sont pas le fait d'autres philosophes, qui suivent le fil de la plume ou d'une inspiration à la Heidegger. Je ne veux pas faire trop long, donc vous me permettez de me débarrasser des nuances et d'être un petit peu coupant comme ça, très ancien peut-être. Et donc la question moi qui m'intéresse, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de créativité en musique notamment, hein, où là vous n'avez pas de règles de science. Il y avait des règles, on entend qu'est-ce que c'est la mauvaise musique, on entend quelle est la bonne musique, peut-être c'est subjectif, peut-être ce n'est pas. Kant, il donne des réponses extraordinaires là-dessus. Appliqué à lui-même, qu'est-ce qui fait la bonne philosophie? Moi, c'est une question qui m'intéresse. Je ne peux pas lire tous les livres qui sortent. La bonne philosophie, c'est une philosophie qui est conséquente. Dans les prolégomènes, Kant dit tout ou rien. Si vous me chipotez quelque chose et que vous arrivez au bout d'un élément, tout va s'effondrer. Il est extrêmement arrogant, là. Hein,
oui, oui.
Il est extrêmement arrogant. Parce qu'il y a des choses qui ne tiennent pas.
Vous dites vous-même qu'après, il a fait la troisième critique.
Exactement. Je viens de dire qu'il est arrogant, etc. Mais il était à ce point persuadé en 85 de la force de son système qu'il osait. Il disait, je vois le front du lecteur qui se fronce parce qu'il va me trouver quand même un petit peu péremptoire là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'il pensait à un moment détenir une méthode absolue d'une efficacité implacable, et tout ce qu'il allait faire en appliquant les règles le mettrait à l'abri des surprises, ce qui n'est pas vrai, et toujours tomber juste, ce qui n'est pas vrai non plus. Si on garde un petit peu maintenant le côté non fixiste, l'idéation qui vous a tellement étonné, et qu'on le met dans son domaine où il doit être. Et on n'est pas en train de faire de la science ici, pure. On ne va pas faire démarrer des centrales nucléaires avec ce qu'on fait ici. Hein. Et Lacan n'a pas cette prétention. Donc si on le repose là où vous avez posé votre question, qui était vraiment la question pour moi essentielle, alors à ce moment-là, nous pouvons pas nous satisfaire des réponses de Kant.
Et donc on devient Fichte.
Mais Fichte, alors très bonne idée. Ce diable d'homme, je cite Fichte, ce diable d'homme avait le secret d'une machine infernale dont il ne nous a pas laissé les clés.
Bah, il aurait pu le dire pour lui aussi.
Wenzel Schaffler, je crois qu'il en a écrit 24. Chaque fois, c'était la connaissance absolue qui allait mettre fin à tout.
Il y en a trois grandes, quand même.
Oui, mais ça fait de trop, je dirais. Ça, ce serait la réponse de Kant.
Hein.
Je me moque un peu. Non, mais je veux dire, oui, et on arrive. J'ai dit que Hegel était la succession logique. il faut absolument aller chez Hegel pour tout ce que vous soutenez. Et comme tu l'as dit
et
toi-même...
Vous remontez non seulement à l'éthique un peu, et si vous ajoutez la phénoménologie de l'esprit, ça serait pas mal, ça errerait un peu les choses, peut-être.
Je pense que c'est l'aération qui est un problème. Non, non,
je voudrais revenir à la question du mouvement et de la fixité.
Ah, j'ai dit des méchancetés, peut-être.
Non, pas
mais
du
non.
Tout.
Mais
mais cette question du mouvement et de la fixité, tu ne peux pas la... Enfin, on ne peut pas faire autre chose que d'invoquer le thème de la fixation, qui est un thème central chez Freud, et qui est exactement traité par Freud dans le sens d'un double mouvement opposé. Puisque la fixation pour Freud...
Je trouve ça très bien, ce que tu dis. Hein? Mais ça prend parfois une valeur très générale.
Comment la fixation.
Le mobilisme, le mouvement... Non, la fixation, c'est un concept assez déterminé.
Assez déterminé, oui, c'est ça. Oui. Et donc, mais ça...
Mais fixisme, statique, etc., c'est quand même un duo de philosophie générale...
Mais le duo est déséquilibré, justement. C'est pour ça que je faisais référence à ce thème de la fixation ou du refoulement originaire chez Freud.
C'est une bonne réponse où tu montres qu'il y a un point de détermination incontestable. Néanmoins, je pense quand même que ça revient beaucoup, ça. Et c'est, on a l'impression, mais j'ai tort, je veux bien l'admettre, Christian, que c'est un peu une position générale. D'autant plus que, bon, la fixation, c'est l'idiotie, c'est le réalisme de tout le monde. Mais le mobilisme universel, qu'est-ce que c'est? C'est Héraclite qui est génial, mais bon... C'est dire à chaque fois le contraire de ce qu'on vient de dire. Et je ne sais pas si en fait Lacan n'est pas entre les deux. D'ailleurs, toi-même, ou Pierre Auban, vous le reconnaissez parce que j'ai cité une articulation très fine entre mouvement et fixation.
Oui.
Donc voilà. Et le piège du réalisme, ça me gêne un peu parce que ce n'est pas seulement la faute du réalisme. Il y a aussi l'idéalisme qui n'est pas merveilleux d'une certaine façon. Le titre me gêne. Je ne sais pas.
Le titre, oui.
Moi, je préférerais l'idéation à condition d'enlever un petit peu la métaphysique de la liberté que je soupçonne, mais dont on m'explique qu'elle n'y est pas du tout. Bon, bah alors, pourquoi pas. Mais
Et puis le problème, c'est que à part dire invention, 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 dès que quelque chose sera dit d'un peu plus concret, d'un peu plus déterminé, il faudra encore se relancer vers une nouvelle invention. Oui. Il sera automatiquement annulé. Donc en fait, ça revient simplement à dire invention, invention, invention à l'infini, sans qu'il n'y ait jamais aucun contenu.
Bon, je pense que quand même c'est un peu plus complexe.
Mais je veux bien, mais ce contenu, quel que soit le contenu que tu vas apporter à un moment donné, il va falloir le dépasser dans une nouvelle invention.
Et puis il faudra un accrochage au réel, je répète, bêtement. Là, j'ai besoin d'une illustration concrète de type analytique. Je te l'ai reproché déjà quand tu as fait ta conférence à Sainte-Anne. Je ne sais pas si tu...
Je voudrais défendre...
C'est moi finir ma phrase, quand
juste
même.
Juste un mot. Je voudrais apporter des arguments pour défendre la thèse de l'invention. Je pense qu'elle est défendable et entièrement défendable. Je pense que la question de l'invention, il faut la prendre à partir de ce que vous dites, Hubert, à savoir de quelque chose qui sert de support à la pensée, à savoir, c'est ça qui est le plus concret, à savoir le nuage. C'est-à-dire le nuage sert de support à la pensée. Le nuage sert de support à la pensée. Et s'il y a quelque chose qui est stable et qui ne se situe pas du côté du pas même ainsi et de l'invention permanente, c'est précisément quelque chose qui résiste. Ça résiste. Donc ça résiste. Il y a une structure qui résiste. Et ça, c'est une structure stable.
Mais pour toi, c'est du réalisme. Cet élément qui...
Là, ce qu'il raconte, c'est qu'il tombe dans le piège du réalisme.
Eh oui.
Dans ce qu'il est en train de dire.
Non, justement.
Si on dit qu'il y a quelque chose qui résiste, on invoque une réalité transformante.
Non, justement pas.
Justement, c'est un réalisme, peut-être un réalisme d'un certain point de vue, dans l'imagination, parce que bien sûr, le réalisme, le nœud est par exemple sur le papier, mais c'est précisément, justement, remis en question.
dans la lecture que tu donnais très brièvement du symptôme.
Non, mais ce qui se passe, c'est qu'on est face à une structure stable.
Et ça, tu le reconnais qu'il y a une structure stable ou pas ?
Et qui est stable, mais qui est toujours en mouvement. C'est-à-dire que.
Stable, c'est tout le temps stable.
Stable et en mouvement.
Mais c'est exactement ce qui est écrit dans Lacan.
Mais ça veut dire quoi ?
Mais lis le symptôme, tu verras qu'il part tous les derniers séminaires de topologie de Lacan. Pourquoi est-ce qu'il ne se contente pas de dire RSI et puis c'est fini ?
Oui, c'est ça.
C'est ça qui est la question.
C'est ça la question.
C'est la transformation du nœud.
Tu l'as dit toi-même.
Mais c'est pour ça que le débat est assez étrangement. On se croirait dans un dialogue platonicien. Hein. C'est pas même ainsi, etc. Et c'est vrai qu'on est toujours. Je crois qu'il ne faut pas chercher à être soit d'un côté, soit de l'autre. Mm-hmm. On est, comme le disait Hubert, et je pense qu'il a raison, on est dans cette idée qu'on a affaire à une structure stable, et parce que le réel, ça résiste.
Et singulière, stable et singulière.
Et que à l'intérieur de cette structure stable et singulière, il y a la possibilité de transformation, voire de points de vue différents sur ces transformations.
Absolument.
On est d'accord avec
on
ça.
On est tout à fait d'accord.
Et voilà.
Oui, oui.
Et moi, j'ajouterais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'inventer.
Oui. Oui,
et ce sont des individualités très remarquables, mais que ce n'est pas facile à généraliser quand même, hein. Je le dis. Même si tu parles pour tous les psychanalystes, je ne les vois pas se mettre à inventer comme toi. Voilà.
Ton travail, enfin ton travail est extrêmement intéressant. Votre travail est très intéressant. Vous mettez le doigt sur des impasses de notre pratique. Et de ce point de vue, c'est extrêmement utile pour tout le monde. Parce que si effectivement on se fixe, c'est le cas de le dire, à des réalités qui n'ont de validité que le point de vue qui les a énoncés au départ et qui les a institués comme réalité universelle, si on se fixe à ça, on est mort, c'est vrai. Je suis d'accord.
En philo aussi.
Mais on peut aussi vouloir vivre et ne faire rien de consistant.
Je sais, mais c'est pas du tout dans cette direction que va.
Pour revenir au titre, hein, Hubert, que tu n'aimes pas tellement, je comprends très bien pourquoi tu ne l'aimes pas tellement. Mais moi, je l'ai accepté parce que c'est Franck qui l'avait proposé. Je l'ai accepté parce que je suis régulièrement absolument énervé d'exposer. Où on a un réalisme qui est supposé acquis, et tu es. On entend ça régulièrement hein, dans le milieu. Je ne parle pas de toi, non.
Mais si, je...
Non, je ne parle sûrement pas de toi. Non, tu le sais très bien que j'admire ça.
Je suis très réaliste, moi, dans ma manière de faire.
La question, c'est de la mise en question des présupposés qu'on avance comme réaliste et fondé, et puis c'est fini, tout le monde a.
Cela dit, tu parles de la création littéraire, artistique, et mon Dieu, quand. Tu n'as jamais pensé à ça, je ne sais pas, je te pose.
C'est vrai que Lacan dit à propos de.
Il n'a pas été un créateur esthétique.
Non, mais
il dit à propos
de Marguerite Duras et de du ravissement de l'Holbeinstein, il dit que la question posée par le ravissement de l'Holbeinstein ne se trouvait que dans le ravissement de l'Holbeinstein. La question clinique, c'est dans ce roman qu'on trouve la question posée par le ravissement de l'Holbeinstein, et que donc c'est important de se reporter au roman, à la littérature, à la poésie, parce que on a des perspectives cliniques qui sont novatrices et qui sont même en avance, dit-il, par rapport à ce que les psychanalystes sont capables de penser eux-mêmes. Mmh. Il le dit.
Parce que c'était jugé qu'elle était une espèce de génie littéraire.
Mais elle a raison.
Mais bon, ça.
Non, ce que je veux dire, c'est que l'invention et l'idéation, elle est aussi clairement dans le dans ce qui n'est pas théorique. Mais...
Bien sûr, j'ai mentionné que la patrie est spirituelle à partir de laquelle je parlais de ça. Pour revenir à votre question.
Aucune liberté métaphysique indispensable pour justifier ça. Mais c'est pas la question.
Avec votre permission, je voudrais juste revenir sur votre question sur la structure stable. On est dans une dichotomie, ou bien on a une liberté pure sans matière, ou bien de la matière opaque qui ne bouge plus.
Ça, c'est Kant.
Non. Ça, c'est la réception scolaire de Kant. Voilà. Il faut se remettre à vivre. Dans le processus de la création littéraire, dans le processus de la création artistique, vous êtes constamment en train de produire du stable et de le déplacer. Parce que n'importe quelle symphonie démarre avec un statement, pour ainsi dire, et après le transforme et le change en ce qu'il n'est pas. Ça, c'est vraiment important de réaliser que la stabilité dont vous nous parlez, c'est quelque chose qui est dans chaque étape de la construction du triangle, dans chaque étape du discours. C'est à partir de quelque chose que j'ai dit où je réalise que je devrais l'expliciter ou peut-être passer à autre chose. Donc, chaque fois, je pose un pied et puis je lève l'autre. Oui ?
Il y a une idée qui aurait pu être rajoutée dans votre bouquin et qui est une idée qu'on trouve à la fin, dans le dernier séminaire de Lacan, c'est qu'il n'y a pas de structure sans rapport au temps.
Oui.
Et que le temps transforme la structure, et c'est ça qui finalement fait le fond.
Précis quand même.
Ben, ça veut dire que.
Est-ce que c'est lié à l'interprétation ? Il y a des chances. C'était l'avis de Melman à la direction de la cure, qui peut effectivement avoir des effets extrêmement marqués sur une structure. Ça, je le crois, hein, absolument.
Donc, c'est-à-dire que je crois que la question. Ce qui aurait pu être un peu plus développé à la fin, précisément pour penser la question de l'invention et la question de la transformation, c'est que justement, il n'y a pas de structure si ce n'est qu'elle s'inscrit dans le temps.
Mais ça, il le dit, hein. Enfin, d'une si autre manière, dit, oui, mais
c'est-à-dire que le temps de l'écoute, déjà de l'analyste, et le temps du patient.
Oui, ça,
le temps du patient. Et là, on est là. Bon, mais voilà, moi, c'est pas une objection. Hein. C'est juste pour aller dans le sens de ce que vous dites.
C'est quelque chose que je vais reprendre dans mon prochain livre. Enfin, pas au niveau kantien, mais la question du temps et de la temporalité.
Le temps.
Donc, on est déjà dans le prochain livre.
Écoutez, on est vraiment contents.
Merci.
Oui,
merci.
Peut-être. Je commence à chauffer. Merci au public d'être venu.
Et au public.
Le public.
Oui. Non, mais
il était bien là.
Il y a le livre dont parlait Lacan, qui avait beaucoup écho, Umberto Eco, qui est son ami. Eco avait écrit La structure absente.
Ah oui, oui, oui.
Il en parle Lacan.
Ça,
c'est le public.
Non, il était bien présent.
Il était bien présent, il a posé des questions.
Pas nombreux, mais très présent.
Un représentant emblématique.
Oui, on avait un public remarquable.
Ah oui. Et singulier.
Fulvio. Fulvio della Valle.
Fulvio della Valle.